Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, il est 6h58, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 9h et nous sommes le mercredi 15 avril. C'est une exclusivité que vous révèle RMC ce matin-là. Santé mentale des jeunes, on va s'y intéresser ce matin parce qu'elle se dégrade depuis 2019 déjà. Tentative de suicide, hospitalisation pour troubles de la santé mentale. Les jeunes et les filles en particulier sont les plus touchés. À 7h40, mon invité ce sera le maire de Reims, président de la Fédération hospitalière de France, Arnaud Robinet. Comment mieux accompagner les jeunes? Que faire si l'un de vos proches sombre? Venez lui poser vos questions. Je vous attends au 3216 et vos messages sur le WhatsApp 0612 424 424. Ce matin, on vous racontera aussi la fin de ce procès hors norme de la DZ Mafia. Le verdict est tombé hier soir. 5 accusés condamnés à la prison ferme, mais un des chefs présumés du narcotrafic a été acquitté. Et puis, lueur d'espoir cette nuit pour le Liban. Israël et Liban ont entamé des discussions constructives, disent-ils. C'est en tout cas ce que les deux pays affirment. Le spécialiste du Liban, Antoine Basbousse, nous expliquera ce tournant à 8h30 sur RMC et BFM TV. Puis notez bien, demain, et seulement demain, entre 5h et 1h30 du matin, toutes les 30 minutes, RMC vous offrira des pleins d'essence de 120 euros, de quoi vous aider à aller travailler, à partir en week-end ou en vacances. RMC, la radio du pouvoir d'achat, on sera à vos côtés toute la journée demain. Inscription et gagnant dès 5h demain, soyez à l'écoute. Dans un instant, le journal de 7h, mais tout de suite la météo, Géraldine, on en est où?
Et là, on va avoir un peu perturbé sur le nord. Alors, c'est une petite perturbation qui va surtout donner beaucoup de nuages, mais qui peut donner aussi quelques petites pluies faibles. Donc, vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre, la Normandie, les Hauts-de-France, en journée, on peut avoir quelques gouttes. Partout ailleurs, donc sur une bonne moitié est, et puis également dans le sud, on va avoir du soleil. Il va y avoir une petite averse sur l'extrême sud-est en journée. Températures qui sont assez contrastées ce matin, mais cet après-midi, c'est la douceur qui l'emporte. Il fera 16 à 21 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 23 près de la Méditerranée.
Il est 7h, très bon réveil à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Paris résiste à Liverpool, s'impose 2-0 et file en demi-finale de Ligue des Champions. La troisième consécutive pour les Parisiens, c'est inédit pour un club français. Toujours pas de baisse de taxes, mais le plafonnement des marges des distributeurs, c'est l'option privilégiée par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix du carburant. Et le verdict au procès de la DZ Mafia, avec l'acquittement à la surprise générale de l'un des deux chefs présumés du groupe, nous serons en direct d'Aix-en-Provence dans le journal.
Et ça en devient une habitude. Paris est donc dans le dernier carré de la Ligue des Champions.
Vainqueur 2-0, comme à l'aller. Les Parisiens ont fait le travail hier soir à Liverpool. Malgré une forte opposition, tout s'est décanté dans les 20 dernières minutes, Valentin Jamin.
Ousmane Dembélé a marqué le but du 2-0. Les joueurs parisiens se sont enlacés très fort, ont soufflé un grand coup, car pendant plus d'une heure, ils ont subi les vagues de Liverpool dans une énorme ambiance, sans craquer, salue l'attaquant Gvichak Varaskelia.
On n'a pas douté, c'est normal, ils ont de très bons joueurs, on savait que ce serait difficile, qu'ils attaqueraient, mais on était prêts. On a montré plusieurs fois qu'on avait une grosse mentalité. Battre Liverpool ici, c'est dur et on l'a fait, on est capable de tout.
Capable même de ne pas encaisser au plus fort de la pression après la mi-temps avec des sauvetages devant le but, un pénalty finalement refusé aux Anglais et grâce aux parades du gardien parisien. Le PSG a tiré presque deux fois moins, mais son efficacité l'envoie en demi-finale, se félicite l'entraîneur Luis Enrique.
C'est le vrai plaisir de savoir que ton équipe va être au niveau, quel que soit le stade, quel que soit l'adversaire. Et Liverpool a joué très bien avec intensité, je pense que ça a été très serré.
Un double du Ballon d'Or Ousmane Dembélé pour cette troisième demi-finale de suite de Paris en Ligue des Champions, du jamais vu pour un club français.
Et demi-finale, ce sera face au Bayern Munich au Real Madrid, on le saura ce soir, match à vivre sur RMC dès 21h. À noter la blessure d'Hugo Ekitike, l'attaquant français de Liverpool est sorti sur civière hier soir, une blessure assez grave, dit son entraîneur, pas sûr de le revoir jouer d'ici la fin de la saison. Mauvaise nouvelle, à deux mois de la Coupe du Monde. RMC, il est 7h03, l'Assemblée Nationale enterre les ZFE, ces zones à faible émission que le gouvernement a tenté de sauver via un amendement laissant le choix aux collectivités de l'appliquer ou non. Il a été rejeté. Les députés ont donc adopté la loi de simplification de la vie économique. Le dernier mot doit revenir au sénateur ce mercredi qui devrait, sauf surprise, suivre la même ligne que l'Assemblée nationale. Le gouvernement qui veut limiter et plafonner les marges des distributeurs de carburant. L'idée n'est pas de baisser les taxes, mais d'empêcher les distributeurs de faire plus de profits qu'ils n'en faisaient avant la guerre au Moyen-Orient. Un projet de décret sur la table du gouvernement. Réponse à la colère des Français face à des prix à la pompe toujours plus hauts. Loin, Cyprien Pézril, de faire l'unanimité au sein de la classe politique.
Éviter que certains profitent de la crise, le député communiste Emmanuel Morel y voit un signal encourageant.
Une première étape, c'est toujours bon à prendre pour les gens qui aujourd'hui galèrent pour payer leur essence.
Mais ce texte ne vise qu'à encadrer les marges des distributeurs, c'est-à-dire qu'une partie de ce qui compose le prix total. Les prix à la pompe pourront donc toujours continuer de varier en fonction des cours du pétrole. Une arnaque, un projet de décret complètement vide, dénonce Jean-Luc Mélenchon, tout comme l'insoumise Aurélie Trouvé.
Il ne s'agit absolument pas ni d'un blocage ni d'un plafonnement des prix. Puisqu'il s'agit tout simplement d'un plafonnement des marges des distributeurs, c'est-à-dire absolument rien, puisque vous le savez très bien que les marges des distributeurs sont déjà, allez, à 0, 1 ou 2%. Encore une fois, le gouvernement se refuse absolument à s'attaquer au vrai nœud du problème. Tout ça est un énorme leurre.
Le gouvernement cherche pourtant à montrer qu'il agit, qu'il ne reste pas les mains dans les poches, sans pour autant faire courir le risque de pénurie d'essence ou d'explosion de la dette publique. Ce qu'on fait va au-delà du symbole, genre un conseiller de l'exécutif.
Et le sujet sera sur la table d'un conseil des ministres ce matin en amont d'un nouveau conseil de défense et de sécurité à l'Elysée, 11h ce matin, au sujet de la guerre au Moyen-Orient, avec l'espoir d'une paix entre le Liban et Israël, réunis autour d'une table pour la première fois depuis plus de 30 ans. Hier à Washington, Tel Aviv et Beyrouth se sont entendus, Célestin Bougère, sur un cycle de négociations directes en vue d'une paix durable.
Nous avons découvert que nous étions du même côté. C'est avec ces mots que l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis a conclu la réunion avec les représentants libanais du même côté contre le Hezbollah, le mouvement armé pro-iranien qui contrôle une partie du Liban.
C'est une victoire pour la paix. Et c'est le début d'une bataille acharnée contre le Hezbollah. Ils sont plus faibles que jamais. Et ensemble, nous continuerons à détruire la menace que représente ce mouvement pro-iranien, si néfaste et si malveillant dans la région.
Le Hezbollah a d'ailleurs qualifié ces négociations de capitulation. Avant même qu'elles ne commencent, l'ambassadrice libanaise aux États-Unis, en sortant de la réunion, parle, elle, de discussions constructives, tout en appelant à un cessez-le-feu. Mais cela prendra du temps pour atteindre une paix durable, a prévenu Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine. La date et le lieu de ces négociations directes entre le Liban et Israël doivent encore être défini.
Jusqu'à 25 ans de prison et un acquittement. Le verdict est tombé hier en fin d'après-midi à Aix-en-Provence au procès de la DZ Mafia sur les 6 personnes jugées depuis plus de 3 semaines. 5 ont été condamnées pour un double assassinat en 2019. En direct d'Aix-en-Provence, ce matin, Pierre Bazin, service police-justice RMC, vous avez suivi ce procès sous tension au terme duquel l'un des chefs présumés du cartel marseillais, Gabriel Horry, a été reconnu coupable, condamné à 25 ans de prison. Mais ce qui surprend, Pierre, c'est que son acolyte, Amin Walan, est acquitté.
Oui, le ministère public avait pourtant requis 18 ans de prison à son encontre, mais la Cour décide de donner raison à sa défense face à un dossier devenu vide pour Amin Walan au cours des débats. Dans cette affaire, il était soupçonné d'avoir introduit un traître dans l'entourage proche de l'une des victimes pour mieux l'abattre, mais l'avocate d'Amin Walan, Maître Inès Medioun, a démontré au cours des débats que ce petit monde de la criminalité marseillaise se connaissait depuis toujours, pas besoin donc d'un entremetteur pour faire les présentations. Aidé par une enquête défaillante vis-à-vis de son client, avec des bribes de sonorisation de cellules erronées, des accusations plus que bancales colportées par un trafiquant repenti. Même l'enquêtrice de police avait été forcée d'admettre que les charges contre cet accusé ne tenaient plus. Pour autant, le numéro 2, présumé de la DZ Mafia, n'est pas ressorti libre hier. Au contraire, puisqu'il est soupçonné d'être impliqué dans d'autres dossiers de criminalité organisée. Il sera d'ailleurs jugé dans quelques mois, ici, pour l'assassinat du demi-frère d'Amin Kessassi en 2020. Mais malgré tout ça, ça ne l'a pas empêché d'afficher un large sourire et un regard narquois comme une ultime provocation au moment de la lecture de la décision.
Pierre Bazin, service police-justice RMC en direct d'Aix-en-Provence ce matin. On apprend également ce matin que le rappeur Kanye West, au cœur de polémiques pour de récents propos antisémites, annonce le report de son concert prévu à Marseille le 11 juin prochain. On y reviendra dans le journal de 7h30. Et puis c'est un peu comme gagner au loto, un Parisien a remporté un Picasso. Portrait de Dora Maar d'une valeur d'€1 million pour seulement 100€. Prix d'un ticket de Tombola au profit de la recherche contre Alzheimer. Lancé en décembre, ce n'est que le week-end dernier qu'Harry a appris l'existence de la tombola. Reste désormais pour le vainqueur savoir ce qu'il va faire de cette œuvre.
J'attendais pas ça, j'avais pas la tête là-dedans. Après la surprise, j'ai été ému. Tout le monde me parle de la valeur, parce qu'effectivement, on dit que c'est une toile qui a une valeur d'un million d'euros. Mais moi, ce qui m'a ému, c'est ce que ça représentait en termes d'œuvre. Et bien sûr, de l'artiste qui l'a fait. J'ai plusieurs choix possibles. Je peux le revendre. Mais moi, franchement, ça me fendra le cœur. Je sais qu'on m'a donné aussi la possibilité qu'il le garde, ou sinon de le mettre chez moi. On lui trouvera sa place. Vous inquiétez pas, je suis pas encore décidé.
Une opération qui a permis de récolter 12 millions d'euros pour la recherche contre Alzheimer.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Baisser les taxes, c'est toujours non. Étendre les aides, pas pour le moment. Bloquer les prix, non plus. Le gouvernement nous annonce simplement qu'il commence à envisager un simple encadrement des marges sur les prix à la pompe. Un décret serait en préparation. Bonjour Frédéric Plan. Vous représentez les professionnels de la distribution des énergies. Ce décret ne servira à rien. Voilà votre parti pris. Vous nous le dites dans un instant et puis je vous attends évidemment vous au 32-16. Est-ce que ce début de geste finalement du gouvernement vous satisfait? Vos réactions au 32-16.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Presque 50 jours de guerre et le gouvernement semble enfin réagir. On apprend donc qu'un décret est en réflexion pour encadrer les marges des distributeurs. Ce décret, vous l'avez lu, Frédéric Plan, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez ces distributeurs au sein de la Fédération française des combustibles, des carburants de chauffage et des carburants tout court. Les prix à la pompe, s'ils dépassent 1,71€, vos marges pourraient être encadrées. Ce décret, il est efficace ou pas? Quelles seraient les conséquences?
Alors d'abord, j'en ai pris connaissance hier après-midi, et un peu par hasard, puisque c'était dans le cadre d'une consultation qui est prévue pour aujourd'hui, du Conseil national du commerce. Pourquoi je dis ça? Ben parce qu'en fait, les organisations professionnelles concernées n'ont pas été ni contactées ni informées de l'architecture, en quelque sorte, envisagée. Et donc, quand j'ai lu ce texte hier, je ne l'ai pas compris. Je l'ai relu hier soir.
Et vous ne l'avez toujours pas compris?
Je l'ai relu ce matin pour venir vous voir, je ne l'ai toujours pas compris. Alors, pour l'essentiel, pourquoi je ne le comprends pas? C'est qu'en fait, on parle de bloquer les marges de la station-service. Et quand on lit le texte, on s'aperçoit qu'en fait, il s'agit des marges de transport-distribution, c'est-à-dire de la station-service, mais en fait, des oléoducs, des dépôts primaires, pétroliers, voire pourquoi pas des wagons-citernes. Et donc, c'est en l'état, moi, je ne comprends rien. Et de toute façon, s'il s'agissait, dans un texte réformé, de bloquer la marge d'une station-service, d'une autre, etc., l'impact sur les prix de vente sera microscopique.
Quand vous dites microscopique, je recevais la semaine dernière Michel-Édouard Leclerc, il affirmait que lorsqu'il vend son essence à la pompe, la marge de Leclerc, c'était 1 centime par litre. C'est vrai ça?
Alors je pense que... Alors je ne connais pas les comptes de chacun des magasins.
Mais est-ce que cet ordre de grandeur vous paraît juste?
Ça ne me paraît pas aberrant quand on parle de marge nette. La marge brute d'exploitation qui inclut les frais de fonctionnement de la station-service ne peut être que supérieure. Mais elle est très différente d'une station-service à l'autre. Pourquoi? Parce que le volume vendu par une station-service varie de 1 à 10, voire de 1 à 12.
Sauf que comme vous dites, si dans ce décret il y a l'idée de supprimer les marges de toute la courroie de distribution, ça veut dire que j'imagine que le camion-citerne, il prend un peu de marge, j'imagine en effet que l'oléoduc il prend un peu de marge, que si on enlève les 1 centime à chaque étape, ça fait quand même à la fin peut-être une petite somme, non?
Oui, mais si vous enlevez les marges d'exploitation des opérateurs, ils s'arrêtent de travailler. Ouais. C'est pourquoi je vous dis, je ne comprends pas. Hein. Mais je vais faire preuve d'humilité. C'est sans doute parce que je suis assez incompétent.
Et là, j'entends votre ironie. Est-ce que ça veut dire qu'une fois de plus, le gouvernement, au fond, ça fait presque 50 jours, il y a eu des propositions, d'ailleurs, de la part d'à peu près toutes les autres familles politiques, estimant qu'il fallait faire un geste sur les taxes, au moins ponctuel. L'Allemagne, par exemple, baisse les taxes pour 3 mois. Mais là, il rejette la responsabilité et la faute et le geste possible sur vous.
Oui, alors c'est vrai que ça ressemble à pointer du doigt sur, puisqu'encadrer les marges de stations-service, ça suppose que les stations-service abusent. Alors donc, ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça n'a pas été démontré. Souvenons-nous, il y a quelques semaines, presque depuis le début de cette opération, on dit, oh, il faut faire attention, il peut y avoir des abus notamment des stations-service. Or, attendez, des enquêtes ont été menées, très bien, et dans les réunions interministérielles auxquelles on participe, on a évidemment traité le sujet, rien n'a été démontré en la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abus.
Oui, mais en même temps, pardon, il y a quand même un problème. Le baril est monté considérablement, il est redescendu, et à la pompe, ça baisse pas. Il y a bien quand même un truc qui bloque.
Alors d'abord à la
pompe. Comment on fait pour le débloquer ?
Alors à la pompe, à ma
connaissance. Comment on fait pour que ça baisse ?
À ma connaissance, ça a commencé de baisser. Et si on s'en tient.
Ça a commencé à baisser
aux cotations.
C'est vraiment, ça n'a pas baissé autant que ça a baissé le baril.
Enfin, je suis désolé de vous dire, je me fiche complètement du baril. Le baril ne m'intéresse pas et n'intéresse pas les professionnels.
Pourquoi ?
Parce qu'il faut regarder le prix des produits. Fini, c'est-à-dire le prix du gasoil passe celui du baril. Or, le prix du gasoil.
Vous achetez vous, c'est du.
C'est du gasoil. C'est pas du baril.
De brut. Le seul qui achète du baril, c'est
le raffineur, absolument. Et donc, effectivement, les prix ont commencé de refluer, tant mieux. D'ailleurs, compte tenu des cotations d'hier, d'avant-hier et d'hier, il est probable que d'ici la fin de semaine et par rapport à la semaine dernière, on puisse observer en moyenne une baisse de prix sur le gasoil qui pourrait atteindre jusqu'à 20 centimes TTC. Mais ça, c'est un effet mécanique permanent. On ne peut pas laisser dire que ce n'est pas répercuté à la baisse quand vous achetez du produit. Alors, ce qui est vrai, c'est que quand vous achetez du produit à un prix donné, je parle là au niveau de la station-service, et que les prix sont sur une tendance baissière, ben les gens achètent moins.
Je voudrais qu'on puisse donner la parole aussi à Jérémy, qui lui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Jérémy.
Bonjour Pauline.
Comment ça va Jérémy, ingénieur commercial? Cette question d'imposer à toute la courroie de distribution de baisser, voire de supprimer ses marges, comment vous réagissez, vous Jérémy?
Moi je trouve ça bien qu'on demande toujours à l'État de devoir intervenir, de devoir venir dans la politique venir utiliser leur pouvoir pour le privé, c'est-à-dire venir obliger les gens à mettre le prix qu'ils doivent mettre, alors que dans n'importe quelle entreprise on ne doit pas imposer le prix de vente. Après s'ils vendent moins, bah du coup ils vont redescendre leur prix tout simplement.
En fait vous croyez à la libre concurrence quoi, Jérémy?
Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe sur tous les autres marchés. Donc, pourquoi on serait obligé d'imposer, parce que les Français doivent vouloir acheter moins cher leur essence et avoir toujours le même train de vie, c'est pas l'État de devoir venir interagir à ce niveau-là.
Ce que vous voulez dire, Jérémy, c'est que c'est aux Français, eux, d'adapter leur comportement en attendant que ça baisse?
Tout à fait. Et c'est pour tous les métiers pareil.
Et d'ailleurs, ils le font, Frédéric Plan, en fait, les Français, parce que les volumes en effet d'achat, alors pour ceux qui peuvent s'en passer, les volumes d'achat ont quand même baissé.
Oui et non. D'abord, je voudrais réagir. Monsieur a raison. Ça fait de belle lurette qu'en France, c'est pratiquement plus de 30 ans, que la situation concurrentielle entre les stations-service est extrêmement forte. Pourquoi ? Parce que la grande distribution qui joue, vous le savez, tout le monde le sait, des carburants comme un prix
un
attractif
d'appel.
Pour venir chez moi, enfin chez eux, détiennent plus de 60% du marché de la distribution finale. Donc, à l'évidence, les autres stations-service ne peuvent qu'entre guillemets essayer de s'aligner avec difficulté puisqu'elles vendent moins en volume, et donc elles ont plus de charges au litre. Bon, peu importe. Donc c'est bien la concurrence qui a toujours fait que les prix, et c'est vrai encore aujourd'hui, crise ou pas crise. Très bien. Quelle était votre question ?
Ma question, c'était les volumes ont baissé, les Français qui pouvaient s'en passer, ont essayé de s'en passer.
Non, je réagissais tout à l'heure en disant que non, c'était pas exact de dire que quand les prix baissent, ça baisse pas si vite à la pompe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand les prix augmentent, et ça a été le cas tout au long du mois de mars, la consommation de l'essence a augmenté de 8%. Pourquoi ? Parce que les gens, en fait, prennent des précautions. Ça monte, je vais faire le plein.
Ça va continuer à monter, et donc préfère faire mon plein aujourd'hui plutôt que dans une semaine.
Absolument. Donc, il n'y avait aucune raison que l'achat d'essence progresse. Or, ça a progressé de 8%. Ce que je vous disais, c'est quand les prix baissent, les gens attendent. Ils disent, ça va baisser encore plus.
Merci beaucoup, Frédéric Plan. Frédéric Plan, vous représentez donc ces distributeurs au sein de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Et on l'a bien compris, ce décret, vous l'avez lu et vous le trouvez incompréhensible. Il est 7h20 sur RMC. Arthur Chevalier est entré dans ce studio. Salut, Arthur.
Bonjour, Apolline.
Arthur, c'est un duel au sommet. Un chef d'État peut-il affronter le pape?
Alors oui, mais il est sûr de perdre, et la France en sait quelque chose, puisque figurez-vous qu'on a déjà kidnappé et emprisonné un pape.
Vous allez nous le raconter. Dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui vient pirater le face-à-face. Mon invité, ce sera le spécialiste du monde arabe et du Liban, Antoine Basbous. Ne bougez pas, il est 7h20 sur RMC et on se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
7h22 et c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Arthur, quand l'histoire éclaire notre actualité. Duel à distance entre le pape et Donald Trump. Alors qu'il se rendait en avion en Algérie en début de semaine, le pape Léon XIV a déclaré à des journalistes qu'il n'avait pas peur de l'administration Trump.
Oui, alors rappel des faits. La semaine dernière, Léon XIV, qui est donc un pape américain, je le rappelle, a critiqué la guerre de Donald Trump en Iran. Bien sûr, le président américain l'a très mal pris. Donc, il a répondu sur ses réseaux sociaux en disant que le pape était faible face à la criminalité, que c'était aussi une personnalité catastrophique en matière de politique étrangère. Trump a aussi posté une photo de lui en Jésus-Christ générée par intelligence artificielle. Bref, c'est à tous ces propos de Donald Trump que répondait le pape dans l'avion qu'il emmenait en Algérie.
En général, entre les papes et les chefs d'État, qui gagne ?
Alors, il y a une seule règle, Apolline, c'est qu'à la fin, c'est toujours le pape qui gagne. Hein, et en fait, c'est très logique, puisque les chefs d'État et les régimes politiques changent tout le temps, alors que le pape, eh ben, il y en a toujours un. Sur la durée, le Vatican survit à tout.
Et alors, vous avez justement un exemple très précis en tête qui concerne la France.
Et qui concerne même Napoléon Bonaparte. Et alors là, vous allez voir, c'est une histoire de dingue. Alors voilà le contexte, Napoléon voulait que l'Église de France soit totalement sous ses ordres, hein, donc juste à lui. Par exemple, il voulait nommer lui-même les évêques, hein, ce qui normalement est une prérogative du Vatican. Forcément, ça n'a pas plu au pape de l'époque, ce pape il s'appelait Pie VII. Donc là, le souverain pontife tient tête à Napoléon, tout le monde s'énerve, c'est un conflit ouvert entre Rome et Paris.
Et Napoléon finit même par envoyer son armée.
Oui, hyper patience très vite, en 1809, l'armée française entre dans Rome et occupe la ville. Et ça va encore aller plus loin, puisque Napoléon ordonne aussi l'annexion des États pontificaux. Donc en fait, les États du pape sont rattachés à la France. Et là, le pape, évidemment, était un peu pris au dépourvu, parce qu'un pape, ça n'a pas de soldats, donc il ne peut pas faire grand-chose. Il répond à sa manière en excommuniant Napoléon, donc en le rejetant de la religion.
Comment Napoléon réagit ?
Eh bien, il a franchi un nouveau cap hein, dans la folie. Il ordonne l'arrestation du pape, cette fois-ci. Et alors là, ça devient complètement rocambolesque. Il envoie un commando de soldats français qui vont escalader les murs du palais du pape à Rome. Ils entrent par les fenêtres et viennent le chercher directement dans ses appartements. Et c'est pas fini, puisque là, ils le kidnappent, ils l'emmènent de force en France et le pape sera emprisonné pendant 2 ans au château de Fontainebleau,
mais
prisonnier.
Mais non, j'avais absolument pas du tout en tête cet épisode extraordinaire. Napoléon va finir par obtenir ce qu'il veut ou pas ?
Eh bah, rien du tout.
Ah, c'est
rien du tout, 2 ans d'emprisonnement. Le pape était sans défense, sans contact avec l'extérieur. Il n'a rien lâché. Du coup, eh bien, c'est Napoléon qui s'est lassé le premier. Hein. Il a fini par le renvoyer à Rome. Une humiliation totale pour l'empereur des Français. Hein. La morale de cette histoire, Apolline, c'est qu'entrer en conflit avec un pape, eh bien, ça ne sert à rien, puisque sa puissance ne repose pas sur la force, mais sur le prestige. Vous pouvez conquérir un pays, mais pas une religion.
Passionnant. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. C'est l'heure d'Arnaud Demanche à 7h25.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Mais bonjour.
Mon invité à 8h30 tout à l'heure, ce sera le spécialiste du monde arabe et du Liban, Antoine Basbous.
Eh oui, Antoine Basbous qui vient nous voir pour parler de quoi, à votre avis ? Alors, 4 propositions.
Oui, allons-y.
Les ramifications géopolitiques de l'Eurovision dans les micro-états post-soviétiques.
Ouais. Bien sûr.
Les chorégraphies de danse d'accouplement chez les mammifères marins.
Intéressant. Uh-huh.
Le traitement du thème du buffet à volonté dans le cinéma scandinave du 20e siècle.
J'aime
ça. Pourquoi pas ? Ou 4, la guerre en Iran. C'est pas facile, hein.
J'hésite.
Eh ben, il y a un écran plat à gagner qui est offert par la direction de RMC. D'ailleurs, pourquoi on l'invite, Antoine Basbous, alors qu'on a quand même le général Pellistrandi qui est séquestré ici. Le pauvre général qui est sur le plateau de BFM 24 heures sur 24, 48 jours de captivité. Est-ce qu'il était même si bon que ça comme général Pellistrandi ? Parce que se faire emprisonner aussi facilement, le patron de BFM, Fabien Namias, c'est pas Saddam Hussein quand même. Fuyez général, tu peux t'enfuir, fuyez, c'est la pub, partez. Là, les enfoirés vont chanter pour sa libération maintenant. Le dernier débat auquel il était présent, j'ai regardé, c'était d'un triste. L'animateur lui a demandé, général, vous voulez ajouter quelque chose ? Il a dit, je peux avoir une photo récente de ma famille, s'il vous plaît ? Non, vraiment, Antoine Basbous, est-ce que c'est le bon invité ce matin ? Ok, il est franco-libanais. Ok, il a été journaliste à Beyrouth. Ok, il a un doctorat en sciences politiques. Bon, d'accord, il a fondé et dirige l'Observatoire des pays arabes. Mais sur CNews, ils ont Nelson Montfort quand même.
Est-ce qu'on peut
rivaliser ? Est-ce qu'on peut rivaliser avec vous savez, mon cher Pascal, je connais bien la région, je suis allé à Djerba une fois, pour une compétition de patinage sur le sable. C'est la puissance de l'analyse. dans les gencives, Antoine
Bazbouz.
Fatigué. Bon, alors, pour l'instant, il y a un cessez-le-feu en Iran. Le prix à la pompe, moi, j'ai lu, ça pourrait baisser de 5 à 10 centimes dans les prochaines semaines. J'espère, quoi. Avec un peu de chance, on pourra partir plus loin que Melun pour les ponts du mois de mai. Pardon.
Non, Melun, c'est bien, Melun.
Melun. Moi, j'en suis au point où je crois que le mieux serait de faire le plein directement à Hormuz. Vous savez ça. Oh, chérie, des billets d'avion, super, tu nous emmènes aux Seychelles. Non, on va faire du pédalo dans le détroit d'Hormuz. Fantastique, des bonnes vacances qu'on va passer. Je prends mon maillot et des jerrycans et je vous laisse avec Tonio Bazbouz à 8h30.
Tonio Bazbouz, c'est à 8h30. En attendant, il est 7h27 sur RMC. On se retrouve dans quelques instants pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Ses excuses n'ont pas suffi. Le rappeur américain Kanye West reporte son concert marseillais après des sorties antisémites. Une défaite de plus pour le gouvernement. Les ZFE, les zones sans voitures polluantes, ont été balayées par les députés hier. Et puis une bonne et une mauvaise nouvelle pour la France du foot. Paris qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Mais l'attaquant des Bleus est critiqué, gravement blessé et certainement forfait pour la prochaine Coupe du Monde.
Et il n'a pas tenu après ses propos et la polémique. Le rappeur Kanye West annonce ce matin le report de son concert à Marseille.
La venue de la sulfureuse superstar américaine avait provoqué une levée de boucliers jusqu'au ministre de l'Intérieur qui s'y était opposé. Romain Houg, vous allez tout nous dire sur cette affaire qui a pour origine des accusations d'antisémitisme. On ne verra donc pas l'artiste le 11 juin prochain au stade Vélodrome.
Oui, c'est sur le réseau social X que le rappeur a fait part de cette décision prise, écrit-il, après longue réflexion. Son concert était depuis le début dans le viseur des autorités. Le ministre de l'Intérieur, comme le maire de Marseille, y était opposé. Laurent Nunez avait dit étudier toutes les possibilités pour interdire l'unique concert en France de Kanye West quand Benoît Payan avait décrété, lui, le rappeur comme persona non grata à Marseille, refusant que la ville soit, je cite, une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Car c'est bien là ce qui est reproché à la star de 48 ans qui enchaîne les sorties antisémites depuis plusieurs années. En 2023, par exemple, il affirme adorer les nazis et met en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web. Et l'année dernière, il sort un titre baptisé Heil Hitler, logiquement interdit par les principales plateformes de streaming. Tout ça lui a déjà coûté plusieurs juteux contrats commerciaux et la perte de nombreux fans. Je regrette mes actes, avait tenté de se repentir quelques mois plus tard le rappeur, assurant que son comportement était dû à ses troubles bipolaires.
Les explications de Romain Houg pour RMC.
Et puis, tout ça pour ça, les députés ont finalement voté pour supprimer les ZFE.
Ces zones à faible émission, c'est-à-dire celles où les véhicules les plus polluants devaient être bannis. 2 ans de débat pour un abandon. Hier, quand l'Assemblée a voté la loi dite de simplification de la vie économique, son adoption par le Sénat aujourd'hui fait peu de doutes et devrait donc acter un lourd revers pour le gouvernement, Sonia Gobry.
En sortant de l'hémicycle, le député RN Pierre Meurin, très engagé pour la suppression des ZFE, crie victoire.
On peut enfin inverser l'effet cliquet de l'écologie punitive. On peut revenir en arrière sur les normes environnementales quand elles sont stupides. Et c'est aussi une grande victoire psychologique en ce sens.
Mine fermée, la députée macroniste Agnès Pannier-Runacher déplore la désinvolture du RN face à un enjeu de santé publique. L'ex-ministre de la Transition écologique reproche aussi au gouvernement de ne pas s'être assez battu pour le maintien des ZFE.
Alors, moi je ne sais pas si c'est une victoire ou une perte pour le gouvernement. J'ai pas bien compris quelle était leur position, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une victoire pour le bloc central. C'est nous qui avons porté la zone à faible émission. Et effectivement, c'est à nouveau le Conseil constitutionnel qui devra régler cette affaire.
En effet, le feuilleton n'est pas terminé. Les socialistes et les écologistes vont saisir le Conseil constitutionnel qui risque de censurer cet amendement visant à supprimer les ZFE parce qu'il pourrait s'agir de ce qu'on appelle un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure qui n'a aucun lien avec le projet de loi examiné.
Le gouvernement qui, par ailleurs, dégaine une idée, encore au stade de projet, pour endiguer la flambée des prix des carburants. Un décret pour encadrer les marges des distributeurs. Eux, le jugent totalement déséquilibré et contre-productif et pointe du doigt les marges, oui, mais celles des raffineurs en amont.
Et d'ailleurs, faire le point, c'est difficile pour nos voitures. Vous nous le dites tous les jours au 32-16. Ça pourrait bientôt l'être aussi pour les avions.
Va-t-on bientôt manquer de kérosène à cause de la guerre en Iran? C'est possible dans un avenir proche, dit la Commission européenne. Amélie Lachin, vous avez interrogé les experts pour RMC. Ils envisagent ces problèmes d'approvisionnement, mais pas avant plusieurs semaines.
Oui, déjà parce que les pays membres de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, ont l'obligation d'avoir des stocks stratégiques de pétrole brut ou de produits raffinés pour au moins 90 jours. Et bien qu'une partie de ces stocks ont été entamés pour amortir la hausse du prix des carburants, dont le kérosène, passé de 750 dollars la tonne avant le conflit à 1900 dollars, les raffineries continuent de produire du kérosène.
Les raffineries françaises reçoivent toujours du brut.
Explique Jean-Pierre Favennec, spécialiste en énergie.
Elles reçoivent plus de brut du Moyen-Orient, mais elles reçoivent du brut d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Amérique, donc elles fonctionnent.
Pour faire face aux perturbations d'approvisionnement, le gouvernement a d'ailleurs autorisé la raffinerie de Gravenchon à augmenter sa production de 10% en gasoil et en kérosène. Mais si le blocage du détroit d'Ormuz venait à durer, les pays de l'Union européenne pourraient, selon ce spécialiste, décider de rationner. C'est ce qu'a fait l'Italie, où plusieurs aéroports subissent des restrictions de ravitaillement en carburant.
Ce détroit d'Ormuz où les États-Unis ont bloqué 6 navires hier selon l'armée américaine. Donald Trump, lui, a laissé entendre que de nouvelles négociations avec Téhéran pourraient avoir lieu dans les prochains jours. C'est un chiffre choc que l'on vous dévoile ce matin sur RMC. Plus 118% depuis 2019. C'est la hausse alarmante des hospitalisations pour tentatives de suicide chez les jeunes filles de 10 à 14 ans. Alerte lancée par la Fédération hospitalière de France. Son président sera l'invité de RMC à 7h45.
Et puis en foot, ça passe pour le Paris Saint-Germain.
Qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, doublé d'Ousmane Dembélé hier soir, victoire 2-0 à Liverpool. Liverpool qui en plus a vu son attaquant français Hugo Ekitike se blesser. Antoine Salva, c'est aussi un coup dur pour l'équipe de France à 2 mois de la Coupe du Monde.
Au moment où il est évacué en larmes sur sa civière, il le sait, sa blessure est grave. À la demi-heure de jeu, Hugo Ekitike tombe tout seul sur la pelouse d'Anfield. Il souffre mais tente de se relever. En vain, le tendon d'Achille semble touché, rupture partielle ou totale. Seuls des examens complémentaires le diront, mais le pessimisme règne. Il pourrait être écarté des terrains durant les 9 prochains mois et manquer le mondial. Pour le joueur de 23 ans, c'est un coup d'arrêt dans une première saison réussie en Angleterre. 17 buts inscrits en 45 matchs avec les Reds. Le mois dernier, en équipe de France, l'ancien joueur du PSG avait séduit Didier Deschamps et marqué contre le Brésil son 2e but en 8 sélections. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour les Bleus à moins de 2 mois de la Coupe du Monde en Amérique et un forfait qui pourrait profiter à un certain Randall Kolo Muani.
Les précisions d'Antoine Salva pour RMC. Hier, malgré sa défaite, l'Atlético de Madrid s'est qualifié face à Barcelone. Ce soir, le Real Madrid tentera de renverser le Bayern Munich. L'un des deux sera le futur adversaire de Paris. À suivre aussi sur RMC dès 21h, Arsenal Sporting Portugal.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome de quart de mai.
Départ 13h55, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, le numéro 3, Jim Dalouette. Son outsider, c'est le numéro 8, Jacques Royal, le 3 et le 8.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h37. On part à Aix-en-Provence. Je voudrais qu'on aille retrouver notre journaliste police-justice. Bonjour Pierre Bazin.
Bonjour Apolline.
Pierre, on voulait prendre le temps ce matin avec vous de comprendre. Vous avez suivi ce procès des chefs présumés de la DZ Mafia. Le verdict a été rendu hier soir. 5 des 6 accusés ont été reconnus coupables, condamnés à des peines de 15 à 25 ans de prison. Mais la surprise de ce procès, Pierre, c'est l'acquittement de l'une des figures du narcotrafic marseillais, Amine Wallan.
Oui, c'est à la fois une surprise puisqu'Amine Wallan est soupçonné d'être le numéro 2 de la DZ Mafia qui aurait commandité depuis sa cellule une multitude d'assassinats. Mais dans cette affaire, et c'est certainement ce qui explique un tel verdict, l'enquête s'est montrée défaillante pour lui. Les éléments initialement retenus sont tous tombés. Des sonorisations de cellules erronées, un témoin ivre lorsqu'elle l'incriminait et un narcotrafiquant repenti plus que bancal à son propos. Et puis le rôle que prêtaient les enquêteurs à Amine Wallan dans ce dossier ne semble pas avoir convaincu la cour. Il était soupçonné d'avoir introduit un traître dans l'entourage proche de l'une des victimes pour mieux l'abattre. Or, les deux hommes se connaissaient depuis l'enfance. Pas besoin donc d'un entremetteur pour faire les présentations.
Pierre, vous avez couvert ce procès depuis le premier jour et vous nous l'avez raconté plusieurs fois. Avec le recul, c'est véritablement un procès chaotique qui s'est tenu.
Oui, hier, on a vu un accusé capable d'expliquer à la cour que le mode opératoire du crime ne portait pas leur signature, que c'était le mode opératoire d'un crétin, je le cite, qu'il n'est pas nécessaire d'attendre 6 mois pour mettre une balle dans la tête. Et surtout, les accusés, notamment Amine Wallan, demandaient à être jugés pour ce qu'ils étaient en 2019 au moment des faits et non pas pour ce qu'ils sont devenus. Le sous-entendu était suffisant puisqu'on rappelle que la DZ Mafia est née il y a 4 ans après ce double meurtre et que Gabriel Horry et Amine Wallan sont donc soupçonnés d'en être les chefs.
Alors cette nuit, cela dit, ils ont tous dormi en prison, même le fameux Amine Wallan.
Oui, puisque tous sont emprisonnés dans d'autres affaires. Ils ont été jugés où ils vont l'être. Amine Ouahlane et Gabriel Horry multiplient d'ailleurs les mises en examen dans plusieurs dossiers de criminalité organisée. Ouahlane reviendra dans ce même palais en octobre où il sera jugé pour le meurtre du demi-frère d'Amine Kessassi qui a eu lieu en 2020. Il est également poursuivi pour d'autres faits criminels comme Horry qui est mis en examen à plusieurs reprises, notamment à Marseille, dans Octopus ou encore à Nancy.
Merci pour ces informations et ce récit, Pierre Bazin, journaliste police-justice d'RMC, en direct donc d'Aix-en-Provence ce matin. Il est 7h39. Les hospitalisations pour tentative de suicide sont en hausse, plus 15% par rapport à 2019. La santé mentale, notre santé mentale, ces chiffres qu'on vous révèle sur RMC ce matin en exclusivité, c'est un phénomène qui touche particulièrement les jeunes et particulièrement les filles. Bonjour Arnaud Robinet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Reims, mais vous êtes aussi le président de la Fédération hospitalière de France. Et c'est vous qui dévoilez ces chiffres. Comment améliorer la situation? Je vous pose la question dans un instant et je vous attends vos témoignages au 32-16. Il est 7h40.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très belle journée à tous, il est 7h44 sur RMC. La santé mentale inquiète, et surtout chez les jeunes et chez les femmes. C'est ce que révèle une étude que vous publiez aujourd'hui et qu'RMC dévoile en exclusivité. Arnaud Robinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France et vous êtes par ailleurs le maire Horizon de Reims. Les tentatives de suicide ont augmenté de près de 17% depuis 2019.
Ouais. Moi, je suis là ce matin pour tirer la sonnette d'alarme. On est face à une crise de santé publique majeure, silencieuse, qui ne cesse de s'aggraver depuis 2019. Et les chiffres sont là pour l'attester. Vous l'avez dit, plus 118% d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les jeunes femmes entre 12 et 14 ans. Nous avons plus de 200 000 hospitalisations de plus à l'hôpital public depuis 6 ans. La situation s'aggrave et on a l'impression que l'on ne fait rien. C'est vraiment un enjeu de santé publique majeur et il faut donc véritablement agir aujourd'hui. Il est temps d'agir.
Donc la situation s'aggrave. Est-ce que l'hôpital face à cela a les moyens de faire face?
L'hôpital public fait face, a accueilli plus de 200 000 patients supplémentaires. Mais la situation est laquelle? La situation est la suivante. Il y a 40% de postes vacants chez les psychiatres à l'hôpital public.
40%.
40% de postes vacants. C'est considérable. Et un tiers de pédopsychiatres en moins à l'hôpital public.
Donc on se retrouve avec 200 000 patients supplémentaires d'un côté, 40% de postes non pourvus en face.
C'est ça, la réalité, elle est là. Alors donc, ce que nous demandons, nous, à la FHF, au pouvoir public, notamment dans la formation des médecins, c'est accentuer la formation de psychiatres, c'est aussi accompagner les CMP. Les CMP, les centres médicaux psychologiques comme on a sur nos territoires. C'est véritablement mettre les moyens sur la santé mentale, la psychiatrie et santé mentale de manière générale.
Parce qu'aujourd'hui, non seulement ça s'aggrave, mais ça s'aggrave aussi pour une autre raison, c'est qu'au fond, on n'a pas le suivi avant que ça ne soit trop grave. On manque de rendez-vous avant. Les délais sont trop longs. Difficile d'obtenir des rendez-vous pour les jeunes, notamment les pédopsychiatres. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui.
Vous savez, il faut jouer sur la prévention et l'accompagnement. Vous avez entièrement raison. Chez les jeunes, on voit la difficulté aussi de la médecine scolaire aujourd'hui, avec un manque de médecins scolaires, d'infirmières scolaires, ce qui fait que nos jeunes sont laissés dans la nature sans accompagnement. On ne détecte pas, je dirais, les signes précurseurs de mal-être.
Vous dites qu'il faut plus de formation, qu'il faut davantage de psychiatres dans les écoles de médecine, si je résume ainsi. Mais il faut aussi un plan d'urgence.
Il faut un plan d'urgence. Il nous faut d'emblée la nomination d'un délégué interministériel. Vous savez, le gouvernement a relancé cette année sur la santé mentale, cette grande cause nationale. Elle avait été lancée par Michel.
Mais au-delà des mots,
il y a des mots, mais derrière, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'action. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai. Rien ne s'est passé depuis quasi un an et demi, depuis la dernière grande cause nationale lancée par Michel Barnier. Aujourd'hui, il y a des mots, nous attendons des actes. Il n'est plus temps d'attendre, il faut agir immédiatement.
Est-ce qu'on commence à avoir le début d'une explication? Pourquoi les filles? Pourquoi les jeunes?
Aujourd'hui, on n'a pas trop d'explications. Alors, on peut mettre ça aussi sur la crise encore de la Covid, bien évidemment. Vous savez, cette jeunesse qui a été perturbée, qui a fait les frais, je dirais, de cette crise sanitaire. Après, est-ce qu'on peut mettre ça aussi sur le sujet des réseaux sociaux? Enfin, il y a vraiment ce mal-être que l'on sent dans la jeunesse. Et malheureusement, j'ai l'impression que nos pouvoirs publics, on parle beaucoup, bien évidemment, de nos seniors, ce qui est très bien, mais on parle très peu de la jeunesse. On donne pas d'espoir à la jeunesse. On est assez anxiogène vis-à-vis de notre jeunesse et on les accompagne pas.
On a évoqué des maisons d'adolescents, des maisons raison de l'adolescence. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que vous en avez les moyens?
Il faut les développer sur l'ensemble des territoires. Dans chaque département, il faut des maisons des adolescents. Dans mon territoire, dans la Marne, nous y travaillons. D'ailleurs, les pouvoirs publics locaux, les communes, ont un rôle à jouer majeur aussi dans ce domaine de la santé mentale pour les jeunes. Il faut que l'on agisse de façon, dans un continuum, je dirais, de prise en charge des collectivités jusqu'à l'État. Les maisons des adolescents fonctionnent, il en faut plus sur notre territoire.
10-14 ans, c'est cette classe d'âge dont vous évoquez que elle a ces tentatives de suicide qui ont doublé, plus que doublé en 5 ans, et des hospitalisations. 10-14 ans, c'est extrêmement jeune.
C'est extrêmement jeune, c'est ce qui est inquiétant, parce que les 10-14 ans, c'est l'avenir de notre pays, c'est la France de demain, et si on ne les accompagne pas, si on ne prend pas en compte véritablement ce sujet, c'est une crise majeure qui nous attend dans les années à venir. C'est un véritable défi aujourd'hui. Vous savez, on parle d'un défi du vieillissement de la population. Moi, je dis que l'autre défi majeur, c'est notre jeunesse et la prise en charge de notre jeunesse.
Un dernier mot, Arnaud Robinet, parce que plus globalement, au-delà de la seule question de la santé mentale, on a compris dans les différentes études qu'au fond, la préservation de notre système de santé était au cœur des préoccupations des Français. Est-ce que notre système de santé est aujourd'hui fragile?
Il est fragile, bien évidemment. Un Français sur deux annonce avoir renoncé à des soins. Il y a 10% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Notre système de santé est fragile. L'hôpital public fait face, bien évidemment, et je tiens à saluer l'ensemble des agents hospitaliers, mais l'ensemble des acteurs du monde de la santé essayent de faire face avec les moyens qu'ils ont. Mais c'est un enjeu principal, notamment dans le débat de 2027. Les Français le demandent, et j'espère que les candidats à la présidentielle vont en prendre en compte.
Préserver notre système de santé est l'une des priorités des Français. C'est ce que révèle notamment l'enquête Ipsos BVA pour Le Monde. Qui a été publiée lundi. Une enquête vraiment de fond sur les priorités des Français. Merci Arnaud Robinet d'avoir révélé ces chiffres ce matin particulièrement inquiétants. Arnaud Robinet, vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. Et ce chiffre très très inquiétant, 17% de tentatives de suicide chez les jeunes en plus depuis 2019. Il est 7h49 sur RMC. Dans un instant, la voix de droite. Ben oui, parce que c'est mercredi sur RMC, la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Ce matin, vous nous donnez le meilleur conseil pour trouver l'amour et pour décrocher du boulot.
Oui, ça tire dans la poche, ça coûte pas très cher et ça se trouve à peu près partout.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle les livres.
À tout de suite, il est 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Eh oui, c'est l'heure du bonus. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est l'Iran qui est en train de détourner ce classique de la pop.
Oui, alors en général, quelques notes, on a reconnu Désirless, Voyage, Voyage. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'on connaisse l'existence même de ce tube à Téhéran, l'Iran qui vient de s'emparer de la chanson pour en faire une vidéo virale détournée par IA. On y voit un Donald Trump de synthèse, look et coiffure années 80, tourné en ridicule et qui chante. I will never give you up. Je ne vous laisserai jamais tomber, le détroit d'Ormuz doit être fermé, chante le faux président avant de lancer blocade, blocade pour blocage, blocage. If you block me, then I block you. Blocade, blocade. Les deux camps jouent de l'IA et des détournements avec humour et décalage vu ce qui se passe sur le terrain, mais Désirless apprécie très peu. Je refuse qu'on utilise ma chanson sans mon avis.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h52 sur RMC et sur RMC Story. C'est mercredi, la voix de droite, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Un chiffre publié hier vous a fait bondir. Un tiers des 16-19 ans ne lisent pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout, c'est un chiffre révélé par le Centre National du Livre. Même tendance d'ailleurs chez les adultes. Chaque Français passe en moyenne 5 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. Et pourtant, Louis, pour vous, la lecture, c'est un super pouvoir.
Lire, écrivait Proust, c'est une amitié. Oui, les jeunes, comme les parents d'ailleurs, lisent moins. Et Dieu que ça se voit, il suffit d'écouter les débats à l'Assemblée Nationale ou les conversations au Café du Coin. Dieu que le niveau baisse, tout simplement. Les gens se privent eux-mêmes, ici, d'un vrai super pouvoir.
Qu'est-ce que vous voulez dire par super pouvoir?
Que lire donne un avantage. Lire, ça donne du vocabulaire, de la culture, ça donne de l'assurance, ça apprend à parler, à écouter, à comprendre le monde. Et que tous les jeunes m'écoutent, je vous en supplie, pour draguer, il n'y a rien de mieux que de parler d'un bon livre qui vous a plu.
On sent que vous parlez d'expérience.
Oui, parce que la lecture est aussi utile pour un employeur. Quelqu'un qui lit, c'est souvent mieux parler, mieux penser, mieux répondre. Et dans une époque où tant de gens parlent pour ne rien dire, le livre permet de se démarquer. La lecture, c'est un avantage pour celui ou celle qui sait s'en servir.
Alors, vous parlez de la lecture comme d'un compagnon.
Parce que la lecture est utile aussi. Elle est aussi non seulement utile, mais nécessaire. Lire, c'est se nourrir. On vit entouré de gens pénibles, de gens mesquins, de gens limités, de gens petits. Quand votre patron vous casse les pieds et que votre voisin vous gâche la vie, ouvrir un grand livre, mon Dieu, que ça fait du bien.
Donc avec un livre, on n'est jamais vraiment seul.
C'est exactement ça. Quand on lit, on n'est jamais seul dans les moments difficiles. Les livres tiennent compagnie. On entend souvent dire d'ailleurs, j'aimerais tellement rencontrer Shakespeare, j'aimerais rencontrer Dickens, j'aimerais rencontrer Hugo. Mais vous pouvez, bon sang. Ils sont là, dans la librairie du coin ou dans la bibliothèque. Et souvent, après avoir lu une œuvre immense, on se dit que rencontrer l'homme aurait peut-être été moins impressionnant et moins agréable que le lire.
Alors, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes, ceux qui ne lisent plus ?
Alors, oracle de la jeunesse que je suis, cher jeune, je te le dis, tu te crois souvent le premier à avoir le cœur brisé, le premier à douter, le premier à souffrir, le premier à galérer. C'est faux. Des milliards de gens sont passés par là avant toi. Lis-les. Regarde comment ils ont tenu. Comment ils ont aimé, comment ils ont souffert, comment ils se sont relevés. Tu y trouveras des réconforts, des conseils, du courage. Et parfois même, cher jeune, tu y trouveras des réponses.
Et pour les moins jeunes ?
Alors je leur dis, on peut discuter avec un roi, croiser César, écouter Talleyrand quand on lit. Ou sinon, regarder vivre un grand homme que dans les livres. Et puis ils savent déjà l'essentiel, vivre. Ce n'est pas toujours facile, il y a la perte, il y a la maladie, il y a la mort. Être humain, c'est apprendre à vivre avec tout cela. Et les livres peuvent justement nous apprendre un peu de dignité, un peu de recul, un peu de sagesse.
Bon, le moment conseil. Quels sont vos conseils lecture ?
Je pense que vous, détective, on a envie de faire une recommandation ce matin. Alors, pour les jeunes, lisez Zweig, lisez Stefan Zweig. Il parle des sentiments des hommes, des femmes, de la vie, avec une clarté incroyable. C'est profond, mais ça se lit au fond très facilement. Pour les moins jeunes, De la vieillesse de Cicéron. Le lire, c'est trouver dans les années non pas un déclin, mais une forme supérieure de liberté et de recul. Alors à vous, ma chère Apolline, de voir quelle recommandation est la vôtre.
Je voulais dire que je suis un peu entre la jeunesse et la vieillesse.
Je n'oserais jamais.
Merci Louis Sarkozy, notre voix de droite le mercredi. Jeudi, demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une ce décret pour encadrer les marges sur les carburants. Est-ce que ce sera vraiment efficace ? Le gouvernement y réfléchit. Enfin, peut-être après 50 jours, presque 50 jours de guerre au Moyen-Orient. Juste après le journal, il y aura l'économie avec Emmanuel Le Chypre. Ce matin, vous penchez sur l'assurance chômage qui est toujours aussi peu efficace.
Oui, le Conseil d'analyse économique nous dit stop à ces réformes qui réduisent l'indemnisation des chômeurs.
Et puis n'oubliez pas, à 8h50 tous les jours, il y a Nicolas Canteloup qui est en direct sur RMC. Ça, ce sera donc juste après l'invité de 8h30, Antoine Bazbous, qui va revenir sur ce tournant peut-être en ce moment entre Israël et le Liban. Il est 7h56, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59, dans une poignée de secondes, il sera 8h. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. 47 jours de guerre au Moyen-Orient et de flambée des carburants. Et le gouvernement prépare un décret pour encadrer les marges de la grande distribution sur les prix à la pompe. Mais vous verrez que les spécialistes disent déjà qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Le camp présidentiel pique une crise après les deux revers de la semaine. On va revenir dessus le 1er mai et la fin des ZFE qui a été votée hier soir à l'Assemblée. Et c'est déjà dans deux semaines que Paris en football va jouer sa demi-finale de Ligue des Champions. Paris qui s'est qualifié hier soir, ce sera soit contre le Real, soit contre le Bayern.
Le gouvernement veut donc encadrer les marges des distributeurs.
Alors qu'on en est donc au 47e jour de la guerre, qu'elle est presque finie, si on en croit les propos de Donald Trump qui évoque une possible reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran dès cette semaine au Pakistan. Victor Joannin, expliquez-nous pour RMC ce décret donc que prépare le gouvernement. C'est pas fait, il le prépare pour encadrer les marges des distributeurs sur les prix, c'est ça ?
Oui, si ce dispositif est déclenché, les distributeurs de carburant ne pourront pas faire une marge plus importante que celle qu'ils faisaient avant le conflit. Et d'après les derniers chiffres officiels, la marge brute des distributeurs et des transporteurs confondus a dépassé les 30 centimes par litre, alors qu'elle était entre 22 et 25 centimes en moyenne l'année dernière. L'entourage de la ministre de l'Énergie, Maud Bréjon, ajoute que ce décret permettrait aussi de lutter contre le comportement de certains pompistes qui répercutent très vite les hausses de prix du carburant, mais qui traînent traîne la patte pour répercuter les baisses. Mais attention, prévient l'expert en énergie Nicolas Goldberg, ce dispositif n'aurait de toute façon qu'un effet très limité sur les prix à la pompe.
Au pire, on parle de quelque chose qui vont s'approcher de la dizaine de centimes. Donc c'est clairement pas ça qui vont faire repasser les prix du gazole ou de l'essence en dessous des 2 euros. Tant que le prix du baril reste haut, ça n'aura que très peu d'effet, voire pas du tout.
Aujourd'hui, le litre d'essence coûte en moyenne 30 centimes de plus qu'au début du conflit et le litre de gasoil 50 centimes de plus.
Alors, les oppositions disent déjà que ce n'est pas assez. C'est dans ce contexte qu'un nouveau conseil de défense est prévu en fin de matinée, 11h à l'Élysée. On verra si cette idée de décret du gouvernement subit le même sort que les deux premières de la semaine. Le travail le 1er mai, finalement pas pour cette année. Et la fin des ZFE aussi, il y aura un vote au Sénat aujourd'hui, mais l'Assemblée a donc voté hier soir la suppression pure et simple de ces zones, sans retenir l'idée de dernière minute du gouvernement qui voulait laisser le choix aux collectivités. Cyprien Pézeril du service politique à RMC en direct avec nous ce matin. La séquence là quand même est mauvaise pour le gouvernement.
Oui, puisque le groupe de députés pourtant censé le soutenir est complètement divisé, fracturé, loin de voter comme un seul homme hier sur le texte qui supprime les ZFE. Ils ont dans les mêmes proportions choisi le vote pour, contre et l'abstention. Ni le gouvernement ni les chefs du bloc central n'ont apporté de ligne claire sur le sujet, déplorant un cadre renaissance. Un lien qui se rompt avec Sébastien Lecornu, accusé d'immobilisme. Je ne comprends plus rien à ce que fait le gouvernement, lancée furieuse hier une macroniste dans les couloirs de l'Assemblée. On nous pisse dessus, dénonce aussi un autre, après le recul du Premier ministre sur le 1er mai, texte pourtant défendu mordicus par les macronistes au Parlement. Et la semaine est loin d'être terminée. Demain, les députés doivent examiner une proposition de loi pour élargir la définition de l'antisémitisme, sauf que là encore, il n'y a pas de consensus chez eux. Ça va encore être tendu, souffle une ministre. Certains députés Renaissance devraient même sécher la séance pour éviter d'avoir à se prononcer.
Et alors, comme si ça ne suffisait pas, on l'apprend seulement maintenant, mais le ministère de l'Éducation nationale a été victime d'une cyberattaque en fin d'année dernière. Une plainte a été déposée, mais Antonin Audion pour RMC, ce qui est inquiétant quand même, c'est que des données concernant des élèves ont été piratées.
Oui, le nom, le prénom, l'établissement, la classe ou encore l'adresse mail de certains élèves ont fuité. Et le week-end dernier, selon les informations de BFM TV, un hacker a revendiqué disposer des données de 3 500 000 élèves. C'est via l'usurpation du compte d'un personnel de l'éducation nationale sur le logiciel EduConnect que les pirates ont dérobé les informations en décembre dernier. Ce site du ministère permet aux élèves ou à leurs parents d'accéder aux notes ou aux dossiers scolaires en ligne. La faille n'a duré que 24 à 48 heures et le ministère précise que la sécurité a depuis été renforcée. Des investigations sont en cours pour tenter de retrouver le ou les auteurs de ce piratage.
Il n'était pas le bienvenu. Eh bien, le rappeur américain Kanye West annonce ce matin le report de son concert prévu à la fin du mois de juin, en juin à Marseille, concert que les autorités voulaient annuler, à le répéter en raison de ses propos antisémites et racistes. C'est ce soir que le Paris Saint-Germain va connaître son adversaire en demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera soit le Real, soit le Bayern qui s'affronteront à 21h avec un avantage d'un but pour les Allemands. C'est la troisième année d'affilée que les Parisiens atteignent les demi-finales de cette compétition en faisant encore une belle impression hier soir à Liverpool que les Parisiens ont encore battu 2-0, doublé d'Ousmane Dembélé. Jean-Louis Tour, vous étiez à Anfield pour RMC hier soir, vous êtes en direct avec nous ce matin. On a l'impression que plus on avance dans la compétition, plus les Parisiens montrent qu'ils sont un candidat crédible au doublé.
Oui, car hier on a vu une autre facette moins courante du PSG cette saison, une équipe capable de souffrir, de faire le dos rond dans un contexte hostile, dantesque même, avec la pluie et le vent, et tout cela sans concéder de but. Paris s'est donc résisté, vertu indispensable dans un parcours en Ligue des Champions, comme la saison dernière l'a montré à Liverpool déjà ou à Aston Villa. Pour tenir, les Parisiens ont pu se reposer sur un triangle de la solidité, la défense centrale d'abord, l'équatorien William Pacho et Marquinhos, le capitaine, qui célébrait ses interventions comme des buts marqués, et le gardien de but, le russe Matvei Safonov. Il a montré qu'il pouvait répondre présent dans un grand match, des arrêts décisifs et une présence pour dégager les ballons du poing au cœur de la tempête. Paris a sa base solide et dispose toujours de ses arguments offensifs. Après l'avoir porté sur les trois derniers matchs de Ligue des Champions, le géorgien Kvaratskhelia a laissé le costume de sauveur à Ousmane Dembélé. Le ballon d'or est en jambe, ses pieds sont réglés avec ce doublé qui a fait si mal aux supporters de Liverpool hier soir. Reste à maintenir ses ingrédients contre le vainqueur de Bayern Real et ainsi rêver à une deuxième victoire de suite en Ligue des Champions.
Jean-Louis Tour, en direct du nord de l'Angleterre ce matin pour RMC. Tiens, écoutez, l'entraîneur parisien Luis Enrique connaît déjà son programme télé ce soir.
Tranquillement, avec une bière, les matchs entre Real Madrid et Bayern de Munich.
Voilà, tranquillement, avec une bière pour ce match qu'on vivra évidemment donc à 21h sur RMC. Ce sera en même temps que l'autre quart de finale. Retour ce soir, Arsenal Sporting, avec un avantage d'un but pour les Anglais. Et puis à 8h06 sur RMC, je m'adresse à tous ceux qui sont en train peut-être de promener leur chien. Figurez-vous qu'à partir de ce matin et jusqu'à la fin du mois de juin, vous êtes obligé de les tenir en laisse, même lorsque vous les promenez en forêt. C'est une vieille loi, mais elle est rappelée chaque année pour éviter que les chiens, en fait, aillent embêter les oiseaux en période de reproduction. Tout ça est très sérieux. Il y a des amendes, hein, si jamais vous enfreignez la loi. Jean-Louis Tritoire, qu'est-ce qu'il y a à écouter dans une forêt près de Toulouse pour RMC?
Tous les jours, une heure de balade en forêt pour le chien de Nathalie.
Charlie!
Ce border collie, croisé et pagneul, a besoin du contact avec la nature, selon sa propriétaire.
La laisse est très contraignante, parce qu'ils ne peuvent pas se dépenser comme ils devraient. Cette mesure, je la trouve pas folle.
Marlène parcourt également cette immense forêt de chênes avec Hugzo.
Chou, viens, viens mon beau. Ouais, super.
Pas de laisse également pour son collet barbu âgé de 11 ans.
Je pars du principe qu'un chien, effectivement, a quand même besoin de sa propre liberté. Pour autant, je comprends la nécessité d'être précautionneux quand on balade comme ça en milieu naturel, parce que la faune et la flore à préserver.
Et pourtant, elle le laisse gambader sans contrainte.
J'assume le fait que si je me fais contrôler, que mon chien n'est pas tenu en laisse, eh ben, je paierai l'amende, puisque je serai hors la loi.
Ce sont les agents de l'Office national des forêts qui sont chargés de faire respecter cette mesure et de verbaliser les contrevenants.
Voilà, 135 euros d'amende à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de mois de juin.
C'est dit, pour protéger les oiseaux. C'était le journal de Quentin Vinet, 8h07, l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Salut Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, les réformes successives de l'assurance chômage ont finalement pas amélioré l'efficacité. C'est ce que dit un groupe d'experts et c'est ce que vous démontrez ce matin.
Oui, effectivement, il y a eu pas moins de 5 réformes de l'indemnisation du chômage en 10 ans. Et le Conseil d'analyse économique, hein, qui est donc le groupe d'économistes indépendants qui conseille le Premier ministre, estime que ces réformes ont été menées sans cap, sans cohérence, sans jamais que leurs résultats soient évalués, avec toujours la même stratégie, durcir les conditions d'éligibilité à l'indemnisation chômage pour faire des économies. Je vous rappelle qu'avant 2019, il fallait avoir travaillé 4 mois seulement pour bénéficier du chômage. Aujourd'hui, c'est 6. Et Gabriel Attal avait même l'intention de porter cette durée à 8 mois. Or, le CAE estime que ça n'a aucun impact sur l'emploi, ni sur le comportement des entreprises et des chômeurs, mais que par contre, ça fragilise la situation financière des plus précaires. Le CAE nous dit qu'aujourd'hui, la France n'est pas plus généreuse que ses voisins, elle ne l'est plus, en tout cas, il n'y a que les plafonds, mais les plafonds, vous savez, c'est l'indemnisation maximale, donc ça concerne très peu de personnes, en fait, qui restent plus élevées, et bien que la France soit devenue à peu près pareille que les autres pays, le chômage reste plus élevé qu'ailleurs.
Alors, quelles seraient les pistes de réforme efficaces, pour le coup?
Alors, arrêtez de durcir donc les conditions d'éligibilité, nous dit le Conseil d'analyse économique. Et alors, ils vont surtout chercher du côté des seniors, et notamment sur la tranche 55-56 ans, qui bénéficient d'une durée d'indemnisation maximale de 22 mois et demi. Il faut rappeler que c'est plus que les moins de 55 ans. Là, c'est 18 mois. Et quand vous avez plus de 56 ans, c'est 27 mois. Et donc, ce que dit le Conseil d'analyse économique, c'est que ce sont eux qui profitent le plus du système, les 55-56 ans. Et donc, il propose de supprimer cette marche intermédiaire qui coûte trop cher au regard du gain pour des personnes concernées qui ont l'âge auquel on dispose notamment du plus haut niveau d'épargne et où on est le mieux à même d'amortir le choc du chômage.
Emmanuel, comme chaque matin sur RMC, le journal de l'énergie, des chiffres, les chiffres de l'énergie, ils sont stables ce matin.
Oui, le gazole 2,30 € le litre, c'est un petit peu plus que lundi, 2 centimes de plus que lundi. Pareil pour le samplon 95 à 1,99 €. Le pétrole, il est dans une étroite fourchette en ce moment entre 95 et 100 dollars le baril. Même si la petite annonce de Donald Trump de cette nuit, comme quoi la guerre était bientôt finie, est une petite détente pour le marché. Et alors le gaz, bonne nouvelle, hein, ça continue à baisser. On est à 43 € le mégawattheure. C'est 10 € de moins qu'il y a une semaine, 20 € de moins qu'il y a 2 semaines.
Merci Emmanuel. Et d'ailleurs, je vous rappelle que sur RMC, demain, on s'occupe de vos plaints. On s'occupe de votre pouvoir d'achat, puisqu'à partir de 5h du matin, demain matin sur RMC, toutes les 30 minutes, toute la journée, on vous offrera votre plein d'essence de 120 €. Restez bien à l'écoute. On sera à vos côtés. Il est 8h10. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Vos rendez-vous sur RMC. Dans un instant, il y a Arnaud Demange qui nous rejoint. À 8h30, le face-à-face, ce sera Antoine Bazbous, spécialiste du monde arabe et du Liban. Donald Trump qui déclare à l'instant « La guerre est bientôt finie ». Et puis ces négociations entre l'Iran et les États-Unis d'un côté, entre Israël et le Liban de l'autre, est-ce que c'est un tournant ? Antoine Bazbous, donc à 8h30. Juste après, il y aura face à Canteloup. Nicolas Canteloup est tous les jours sur RMC. Ça se passe à 8h50, tous les jours en direct. Ne le manquez pas. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud.
Bonjour, et il rentre sur son petit saxophone, c'est moi.
Bonjour.
Apolline, Virginie, Géraldine. Et surtout, bon anniversaire Mathieu Béliard.
Mais non, mais bon anniversaire Mathieu.
Bon anniversaire, c'est l'anniversaire de notre Mathieu. Mathieu qui s'est auto-fait plaisir ce matin. Alors comme tous les jours, mais un peu différemment. Il a cuisiné des beaux gâteaux pour lui et ses enfants. Les chéris, regardez, pour l'anniversaire, papa il a fait des gâteaux.
Oh non !
C'est un voyage sucré en trois variations intitulé « Découvrons le sucré du légume ». Car tu sais mon chéri, le navet aussi peut être un dessert.
Et oui papa, on sait. Allez, c'est reparti.
Alors, je vous propose un carpaccio acidulé de fenouil anisé, infusion agrumée et cristallisation de sucre brut. Non, 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 non mon chéri. Ne mâche pas tout de suite ce fenouil. Dialogue avec lui. Ensuite, ravioles ouvertes de poireaux confits au jus d'ail des ours, sirop léger et nuages mentolés. Et enfin, mon chef-d'œuvre, la déclinaison texturée de courgettes maturées, gel citronné et sablé croustillant de topinambour.
On vient dîner ?
Et tu vas voir comment la courgette va installer le récit de sa rencontre avec le topinambour.
Je peux prendre un Kinder Pingui ?
Tu manges ! Tu manges ! Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Tant qu'on parle de pâtissiers, eh ben ils seront fermés le 1er mai. Le gouvernement a reculé sur son projet d'autoriser l'ouverture de certains commerces. Donc, nouveau recul de Sébastien Lecornu. On écoute la déclaration du Premier ministre. C'est très subtil. Donc il a reculé, il a tellement peur de se faire censurer, il va faire le reste du quinquennat en moonwalk. Le Cornu, c'est le Michael Jackson de la politique. Alors que jusque-là, c'était Jack Lang. Mais pour d'autres raisons.
Oui, c'est pas vrai.
Calomnie. Et Michael Jackson était un garçon délicieux, dans tous les sens du terme, et toujours prêt à rendre service au neveu de mon ami Jeffrey. On s'est rencontrés chez Woody Allen, on sait.
On sait.
Les syndicats ont été reçus par le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, l'ancien patron de la SNCF. Il leur a proposé donc un café. Oui, c'est gratuit total. Il leur a proposé un café à 3 euros et un burger Thierry Marx à 17,90 euros. Comme au wagon bar. Et il leur a annoncé que la réforme sur l'ouverture des commerces le 1er mai est annoncée voie de garage avec un retard à un an.
Oui.
Y a quand même un paradoxe dans cette histoire. Le 1er mai, c'est le seul jour où n'importe qui a le droit de vendre du muguet dans la rue. C'est la fête du travail, mais au noir, en fait. T'as pas le droit de travailler avec un contrat. Mais sinon, tu peux. En revanche, le gouvernement a précisé qu'il laissait aux vieux le choix de mourir ou non à la Toussaint. Ça, c'est sympa.
C'est délicat.
Sur la base du volontariat.
W9 lance une nouvelle télé-réalité. Cougar Island.
Oui, Cougar Island. Ça a l'air génial. Ouais, Géraldine de Maury m'a dit qu'elle voulait s'inscrire. Alors, mais non, c'est pas vrai. Le pitch. Dans Cougar Island, trois femmes d'expérience tentent de trouver l'amour auprès d'une dizaine d'hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Sébastien Lecornu, ça va pas lui plaire encore. Il va débarquer sur l'île en faisant « Non, 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 vous me remballez vos cougars. C'est interdit maintenant, les vieilles chaudières. On passe à l'électrique. » Je suis sûr qu'Emmanuel Macron, il sera devant sa télé. Des célibataires de plus de 70 ans à la recherche de l'amour avec un beau jeune homme. Françoise, Chantal, Monique, Jacqueline, Mireille. Et lui, oh, faut que j'enlève ma chemise. Et Brigitte qui débarque. Qu'est-ce que tu regardes ? Rien. C'est affaire conclue. Bref, elles vont rencontrer des prétendants jeunes et musclés et qui vont faire avec elles bah, des activités de senior, j'imagine. Partir faire une croisière philosophie avec des conférences de Luc Ferry, des puzzles, rempailler des chaises, faire des sudoku, de l'aquabike, regarder Estelle Midi.
C'est gratuit.
Oh, c'est gratuit.
Je déconne, oh là là, elles sont pas si vieilles que ça en plus. Elles sont même assez jolies. Mathieu me disait, moi, prochaine saison, je m'inscris. Mais en tant que cougarion, c'est-à-dire cougar à chignon, on a encore pris un an aujourd'hui, mon petit pote.
Ouais,
bon anniversaire.
Ouais.
Fini la vingtaine. Bref, elles sont pas si vieilles. Heureusement, vous imaginez une candidate de 95 ans. Il n'y aura pas une dizaine de prétendants. Hein. Remarquez, là, ce serait pratique parce qu'avec Alzheimer, un seul prétendant suffit.
Ah oui.
Il y a juste à lui présenter le même mec 10 fois. Alors Jacqueline, voici Basilio, votre prétendant.
Oh, enchanté. Et qui est-ce, monsieur ?
Eh bien, Jacqueline, c'est Basilio, votre prétendant.
Ah bon ? Eh bien, enchanté. Ah, et qui êtes-vous, monsieur ?
Eh bien, Jacqueline, c'est Basilio, votre prétendant.
Oh, ravi. Je ferai le deuxième. Et lui, c'est qui ?
Eh bien, Jacqueline, c'est Basilio, votre prétendant. Ça peut être très long comme émission.
Ouais, c'est magnifique.
Allez, à demain.
Merci, Arnaud. Il est 8h19. Vous êtes bien sur RMC. C'est difficile. Mais promis, ça y est, je vais re-switcher. Je suis avec vous, Nicolas. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, Apolline.
Comment ça va, Nicolas ? Vous êtes dans la Nièvre. Pardon, je ris encore des blagues d'Arnaud Demanche, mais on va évidemment parler carburant parce que, après presque 50 jours de conflit, le gouvernement dégaine enfin une sorte de décision. Ils auraient écrit un décret et ils envisageraient de le publier. Ce décret, ils demandent aux marges d'être réduites en distributeurs de supprimer leurs marges. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Nicolas ?
Bah, moi, je pense que ça peut être une fausse bonne idée, en fait.
Vous êtes dans le camion, là ? Vous êtes chauffeur routier ?
Ouais, je suis dans le camion, je suis en région parisienne.
Ouais.
Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Si on met un plus sur les marges des distributeurs, ça va faire une recette, ça va forcément impacter leurs bénéfices. Donc, ça peut faire aussi une recette fiscale en moins pour le gouvernement. Ouais. Et pour nous, ça fait un gain très, très peu, très, très faible, finalement.
C'est minime, effectivement.
Ouais, c'est minime, alors qu'il y a 60% de taxes. Quand on paye un plein 2,35 on donne 1,41 € de taxes.
Nicolas, quand vous faites le plein pour le camion, évidemment, du coup, les chiffres sont assez effrayants. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre entreprise ? Comment vous vivez-vous ce moment ?
Ah bah nous dans mon entreprise, ils nous demandent de mettre 200-300 litres en station maximum. On
repasse souvent par le dépôt. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous faites d'habitude, je me rends pas compte.
Bah en fait, au lieu de mettre 600 ou 700 litres en station, ils nous demandent d'attendre de revenir au dépôt pour qu'on ait le gasoil le moins cher possible. Et ils nous disent si t'as quelque chose à faire, bah mets 200 litres, mais fais un complément, mais pas un plein.
Ouais, pour faire le minimum en station, le minimum sur la route. Merci Nicolas. Mathieu, il y a de nombreux messages
sur cette idée de réguler les marges. En particulier, Chris nous écrit une nouvelle fois, nos chers politiciens montrent leur incompétence, ils ne comprennent rien, ils ne savent même pas ce que signifie marge. Et Vinsou qui nous dit, donc si je récapitule, il y a un ogre en haut de la pyramide qui prend 1 € par litre de carburant et on est en train de chercher des noises à ceux qui prennent quelques centimes. Greg nous dit, ça fait plus d'un mois que tout ce qu'on veut, c'est la baisse des taxes, on nous prend pour des imbéciles. Et Christophe encore qui nous dit, limiter la marge des distributeurs, c'est se moquer des Français. On sait très bien que dans les stations-service des supermarchés, le carburant est un produit d'appel et que la marge est quasiment nulle. Voilà ce que dit Christophe ce matin sur le WhatsApp RMC au 0612 424.
Merci pour vos messages et merci à Nicolas. Bonne route surtout. Il est 8h22. Dans un instant, cette déclaration, cette nuit de Donald Trump, la guerre est bientôt finie. Voilà ce qu'il a dit. Peut-on le croire ? Et sur quels signaux les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis pourraient reprendre ? Le premier début de discussion entre Israël et le Liban ont été constructifs. Voilà ce que disent les deux parties. On fait le point avec Antoine Basbous sur le scénario des prochaines heures et des prochains jours. Antoine Basbous, spécialiste du Moyen-Orient, il est avec nous dans un instant sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC,
Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Encadrer les marges des distributeurs, c'est la nouvelle idée du gouvernement pour faire baisser les prix à la pompe. Un décret pour l'instant au stade de projet, mais que ces mêmes distributeurs jugent totalement déséquilibré et contre-productif. Confirmation attendue aujourd'hui au Sénat pour la suppression des ZFE, ces zones interdites aux véhicules les plus polluants. Hier, les députés les ont supprimées contre l'avis du gouvernement en votant la loi dite de simplification de la vie économique. C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Donald Trump a en tout cas laissé entendre que les négociations de paix avec l'Iran pourraient reprendre, je cite, dans les deux prochains jours. Un chef présumé de la DZ Mafia échappe à une condamnation acquittement hier après des semaines de procès sous très haute tension à Aix-en-Provence. Les cinq autres accusés ont écopé de 15 à 25 ans de prison dans cette affaire d'assassinat. Ces excuses n'ont pas suffi. Le rappeur américain Kanye West annonce ce matin reporter son concert marseillais. Le ministre de l'Intérieur et le maire de la ville s'étaient opposés à sa venue en juin prochain après les sorties antisémites de l'artiste. Du foot et le PSG qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Mauvaise nouvelle pour les Bleus. L'attaquant français Hugo Ekitike s'est gravement blessé à 2 mois de la Coupe du Monde. Et puis la météo, un temps gris sur le nord-ouest attendu aujourd'hui avec quelques pluies en journée. Il y aura tout de même beaucoup de soleil sur le reste du pays. Je vous donne les températures. C'est la douceur qui va dominer cet après-midi avec d'abord de 16 degrés à Brest jusqu'à 23 à Marseille, Montpellier et Perpignan. Il fera 18 à Rennes, Nantes, Bourges ou encore Rouen. Et puis 20 à Reims, Biarritz et Bastia.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Lueur d'espoir cette nuit pour le Liban. Israël et le Liban ont entamé des discussions à Washington. Elles sont constructives. Voilà ce que disent les deux pays. Le spécialiste du Liban, Antoine Bazbou, c'est mon invité. Dans un instant, il nous expliquera ce tournant. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Antoine Bazbous.
Bonjour madame.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes politologue, associé chez Forward Global et directeur de l'Observatoire des pays arabes. Ce tournant peut-être, peut-on l'espérer, et ces déclarations tournant du côté des discussions, des échanges, des négociations et puis cette déclaration de Donald Trump ce matin, la guerre est quasiment finie. Est-ce qu'on peut le croire ?
Il y a 10 tournants dans les déclarations de Monsieur Trump tous les jours et ils sont parfois contradictoires entre le tournant de vouloir détruire la civilisation iranienne et la fin de la guerre. Il y a beaucoup d'écarts en peu de jours. En tout cas, il y a peut-être un rendez-vous diplomatique qui se prépare à Islamabad entre les deux délégations. Il y a le rendez-vous du 21 avril, la fin du cessez-le-feu. Il y a le blocus d'attente, en quelque sorte. Donc, ça se joue bras de fer en attendant soit le retour aux armes, soit le retour à la table des négociations.
Ça veut dire qu'il y a une sorte de compte à rebours qui est lancé. La date du 21 avril, elle est évidemment très importante. Mais lorsque vous dites, en fait, on ne sait plus exactement, effectivement, lire le Donald Trump. On va essayer de comprendre ce qu'il pourrait faire, au fond, que cette fois-ci, ça marche. Et notamment, prenons un par un les différents points. On va revenir évidemment sur les discussions entre Israël et le Liban qui ont été, disent-ils, constructive hier soir, mais d'abord cette évocation d'une reprise des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis à Islamabad. Pourquoi ça marcherait cette fois-ci et que ça n'a pas marché la dernière fois?
Parce que peut-être que les uns et les autres sont revenus à de meilleures considérations du rapport de force et que les Américains auraient peut-être mis un peu plus d'eau dans leur vin et surtout les Iraniens se seraient rendus compte que négocier cette fois-ci, ce n'est pas pendant des années, mais il faut aboutir à des résultats assez rapides, d'autant plus qu'ils sont maintenant sous blocus, qu'ils ont beaucoup de pertes, qu'ils ont des infrastructures détruites et que eux aussi, malgré leur résilience, ont besoin d'aboutir, ont besoin d'une sortie pour retrouver un semblant de vie.
Il y avait plusieurs points sur lesquels, de toute façon, dès le départ, ils n'étaient pas d'accord et qui ont fait que ces dernières négociations ont avorté très vite, notamment la question de renoncer au nucléaire. Est-ce que c'est un point sur lequel, en réalité, l'Iran serait prêt à véritablement faire un pas parce qu'il y a les déclarations et puis il y a le réel.
Rappelez-vous, au début de la guerre, on voulait détruire le régime, changer de régime. Or, aujourd'hui, on est en train de consolider le régime en signant avec lui un accord sur l'avenir du nucléaire. Les Américains auraient demandé 20 ans de suppression, de suspension du programme nucléaire. Les Iraniens auraient accepté 5 années, c'est-à-dire au-delà du mandat de Donald Trump. Mais il n'y a pas eu accord. Or, l'état d'esprit, la mentalité de Vince en arrivant à Islamabad, c'était « j'ai plié le match, venez signer ». C'était pas comme ça que les Iraniens entendaient cette négociation. Donc il n'y a pas eu de prolongation, 20 heures de négociation et rupture.
Vous le dites, le régime qui finalement sort presque renforcé, qui a l'avantage au moment où on se parle?
Évidemment, les États-Unis ont vraiment brisé les reins de la République islamique.
On l'oublie presque, parce qu'ils fanfaronnent.
Parce que l'Iran est dans le déni. La mort des hommes chez les Iraniens qui sont formatés pour dire nous sommes des shuhada, des martyrs, nous allons rejoindre le Mahdi au paradis. Donc ça n'a pas la même valeur. Les Iraniens ont perdu 13 soldats, dont certains par la chute d'un avion,
par les accidents,
et non pas par un acte de guerre. Alors que les Iraniens sont vraiment par terre, mais eux ne reconnaissent jamais qu'ils ont subi de tels dégâts. Ils se disent toujours combatifs et se réclament comme étant issus d'une civilisation, ce qui est vrai, mais ils veulent pas.
Il y a la civilisation, il y a le régime des Mollahs, mais lorsque vous dites ils ne le reconnaissent jamais, le reconnaîtront-ils? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait, au fond, véritablement briser ce régime, si on en reste au régime, même si on a bien compris que c'était désormais même plus dans la liste de courses des États-Unis?
D'abord, une réaction en interne, mais cette réaction tarde à venir parce que le régime a non seulement mobilisé les Bassidj, c'est-à-dire la police locale, mais aussi fait venir du Pakistan, de l'Afghanistan, de l'Irak, des chiites qu'ils avaient embrigadés auparavant pour faire le coup de feu et maltraiter la population qui sortirait dans la rue. Donc il est de ce côté-là suffisamment fort pour continuer à se maintenir. Et puis il a quelques réserves, il a des proxys, le Hezbollah au Liban, les Hezbollah en Irak qui continue après le cessez-le-feu à bombarder les pays du Golfe, au point que l'Arabie a convoqué l'ambassadrice d'Irak à Riyad pour
qu'est-ce qui peut aboutir de cela? Parce que évidemment on va prendre le temps aussi de comprendre ce qui pourrait se jouer entre Israël et le Liban, mais lorsque vous dites au fond il y a le cessez-le-feu, l'Iran laisse entendre qu'il montre qu'il le respecte pour l'instant, on est bien d'accord. Donc les frappes que vous évoquez ne sont pas directement le fait de l'Iran. L'Iran peut dire c'est pas nous, mais c'est tout de même des proches de l'Iran.
Mais de qui se moque-t-on? Quand le Hezbollah au Liban ouvre un front sur instruction de Téhéran, commandé par les Pasdaran qui sont au Liban, c'est au profit de qui il le fait? C'est pas le gouvernement libanais, c'est Téhéran qui a décidé ainsi. C'est pour ouvrir un front de substitution. C'est la sentinelle libanaise qui veut soulager la citadelle iranienne. C'était début mars, au début des affrontements. Idem pour les milices du Hezbollah en Irak. Quand l'Iran dit « je respecte le cessez-le-feu », il dit à ses milices en Irak « allez, tapez le Koweït, le Qatar, Bahreïn, l'Arabie ». Et il y a eu beaucoup de dégâts. Il y a eu 700 000 barils de sortie après le cessez-le-feu parce que les milices irakiennes ont frappé un oléoduc en Arabie. Ils ont détruit beaucoup de choses au Koweït également. Mais tout ça... Il faut pas être naïf à ce point.
C'est l'Iran
qui donne directement. C'est le commandement iranien des Pasdaran qui ordonne et les autres exécutent.
Antoine Basbous, cette rencontre hier à Washington, une rencontre directe pour la première fois depuis des décennies entre le Liban et Israël. Les deux parties ont estimé qu'il s'agissait de premières rencontres constructives et qu'il y aurait une suite. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qu'on peut en attendre?
D'abord, c'est un tabou qui a été brisé puisque la dernière rencontre remonte à 1983. Deuxième chose, les deux sont d'accord sur le point qu'il faut trouver une solution pour vivre côte à côte et non pas en guerre. Mais qui fait la guerre? C'est le Hezbollah. Qui est le Hezbollah? Laissez-moi vous rappeler deux, trois choses. L'actuel chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a écrit un bouquin dans lequel il raconte la soirée à Téhéran au cours de laquelle l'ayatollah Khomeini a signé le décret de création du Hezbollah. Donc le Hezbollah a été créé à Téhéran par un décret de Khomeini. Je vous rappelle également que Nasrallah, l'ancien chef charismatique, disait à la télévision et répétait « Je suis un soldat dans l'armée de Wali al-Faqih ». Wali al-Faqih, c'est-à-dire Khamenei. Et donc le Hezbollah...
Le lien intrinsèque, quasiment enfanté par l'Iran en fait, du Hezbollah, c'est ce que vous nous dites.
Mais c'est une réalité reconnue par tous. Un livre signé par l'actuel secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, décrit dans le détail
mais
tout
alors,
ça.
Mais alors, on a quand même du mal à comprendre comment, sachant tout cela, et tout cela étant écrit, le Hezbollah a pu prendre une part aussi institutionnelle dans l'ensemble du puzzle libanais.
Parce que le Hezbollah a été aidé, renforcé, dopé par l'Iran, et il a infiltré d'autres communautés, il a pris part au pouvoir, il a su se faire grandir, parce que le Liban faisait partie de l'axe de la résistance avec la Syrie. Et la Syrie, maintenant qui n'est plus dans l'axe iranien, c'est une occasion, une opportunité unique pour que le Liban retrouve le chemin de la souveraineté.
Deux questions, Antoine Basbous. Est-ce que le Liban peut faire comme si le Hezbollah n'était plus là? Parce qu'au fond, c'est un peu cette carte qu'il joue en ce moment à Washington. Il négocie, il discute, comme si le président de la Assemblée nationale n'était pas membre lui-même du Hezbollah, comme s'il n'y avait pas ces accords institutionnels avec le Hezbollah. Est-ce qu'il peut vraiment s'en passer? Et est-ce que le Hezbollah est aujourd'hui, malgré tout, affaibli?
Deux choses. Khamenei, en recevant le président libanais Michel Souleiman en novembre 2008, lui a dit exactement, entre guillemets, c'est un ministre présent, Michel Edde, qui me l'a raconté, j'ai confié une mission au Hezbollah d'éliminer Israël et de reconquérir Jérusalem. Ça, c'est Khamenei qui dit cela au président libanais. Donc, ce sont les pasdaran libanais, le Hezbollah. Ils ont créé des séminaires, des mabarrat, pour formater une jeunesse aux valeurs de Wali al-Faqih, aux valeurs de la
iranienne.
République islamique. Donc, c'est ancré, c'est bien structuré. Sauf qu'aujourd'hui, le Hezbollah est synonyme de malheur au Liban. Il a mené des guerres qui ont fait perdre le pays, sa sécurité, sa
mais
prospérité.
Mais peut-il passer outre? C'est-à-dire que le Hezbollah maintient et dit et fait savoir depuis 24 heures qu'il refuse évidemment toute conclusion ou tout ce qui ressortirait de cette discussion entre Israël et le Liban. Et le pouvoir libanais officiel, le président libanais, lui dit non, on va mener ces discussions. Comment ça peut marcher ça?
Eh bien, le Hezbollah n'est plus un poisson dans l'eau au Liban. Il est presque détesté par l'ensemble des communautés, de l'opinion publique, y compris chez les chiites. Parce que par son action sur instruction de Téhéran, il a jeté sur les routes plus d'un million de chiites qui ont quitté le Sud et qui pourraient ne plus jamais revoir le Sud. Et ils sont plus accueillis parce que quand un chef du Hezbollah s'introduit dans un immeuble, Israël vient frapper l'immeuble. Donc, ils sont plus du tout les bienvenus ailleurs. Ils sont sous pression. Et le gouvernement libanais a pris des décisions qui n'existaient pas auparavant. Le désarmement du Hezbollah, même s'il n'a pas la capacité ou peut-être parfois la volonté, parce qu'il y a des complicité quelque part.
C'est quoi ces complicités? Je lisais hier dans l'éditorial de L'Orient Le Jour, effectivement, qu'ils disaient au pire, enfin au mieux, le gouvernement libanais n'a pas réussi à désarmer le Hezbollah. Au pire, il a été berné ou s'est laissé berner. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Vous savez, une partie du gouvernement libanais actuel a fait son ascension sous la férule du Hezbollah. C'est-à-dire, ces gens-là étaient aux affaires auparavant, quand le Hezbollah construisait son armement, ses tunnels, ses stocks d'armes, recevait les pasdaran, recevait les milliards de dollars de l'Iran. Donc, ils sont quelque part, ils ont fait leur ascension ensemble. Ce sont des sous-traitants. Ils sont restés au pouvoir aujourd'hui avec la mentalité de sous-traitants du Hezbollah, alors qu'ils sont les chefs et que le Hezbollah est rejeté par l'opinion publique libanaise.
Antoine Basbous, Hamas. La question évidemment du cessez-le-feu entre au Liban. Ce matin, à l'aube, il y a eu une frappe israélienne contre une voiture à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Alors, certes, c'est une voiture ciblée, semble-t-il, mais ça veut dire que les frappes se poursuivent. Est-ce que les discussions peuvent avoir un lieu sans qu'il y ait un cessez-le-feu réel ?
En 2024, il y a eu un accord entre le Hezbollah et Israël dans lequel il y a eu cessez-le-feu, mais donnant à Israël la possibilité d'aller continuer à frapper là où il faut. Et donc, c'était un accord léonin que Israël est en train de poursuivre sous la supervision des États-Unis. Et donc, il y a des cibles sélectives et il y a même eu des cibles qui ne sont pas sélectives mercredi dernier qui ont été
frappées. Mercredi dernier avec ces frappes considérables, effectivement.
Il y a eu un carnage à Beyrouth. Et donc, Israël ne va pas s'arrêter. Israël a la volonté de créer une zone de protection de 8 kilomètres.
C'est une zone de protection ou c'est une zone d'occupation?
C'est une zone d'occupation, mais qui pourrait devenir une zone annexée parce que Monsieur Smotrich, le ministre israélien des Finances, a demandé l'annexion.
Qui est membre de l'extrême droite et qui est dans cette coalition autour de Benjamin Netanyahou.
Il a demandé l'annexion du sud du Liban jusqu'au Litani. Et c'est pas une revendication récente puisque avant la naissance d'Israël, il y avait des dirigeants qui réclamaient l'annexion jusqu'au Litani.
Mais ça met évidemment en péril tout début de discussion crédible, solide entre le Liban et Israël.
Non, si ça se fait sous égide des États-Unis, eh bien les États-Unis peuvent garantir que il n'y aura pas d'annexion d'un côté, mais il va falloir aussi garantir le retour des réfugiés dans leur domicile. Or, Israël, aujourd'hui, est en train de démolir tout ce qui est sur la frontière. Au point que, à côté du siège de la FINUL à Nakoura, ils ont
Nakoura,
démoli...
C'est où?
C'est à la pointe sud de la frontière, sur la mer. Une belle cité. Eh bien, il y a un hôtel à côté du siège de la FINUL que les Israéliens voulaient détruire à la dynamite. La FINUL a dit, mais si vous le faites, notre QG va sauter par le souffle. Donc ils ont réussi à ce que Israël le détruise avec des pelleteuses.
Avec des pelleteuses, donc ils l'ont malgré tout détruit. Ça veut dire qu'en fait, il y a cette discussion, c'est assez inouï d'imaginer même sur le terrain ces discussions-là. Vous parlez de la FINUL, quel peut être le rôle de la France? On a bien compris qu'Israël ne souhaitait pas et refusait même que la France participe à ce moment de discussion comme une sorte d'entremetteur ou de participation justement entre les deux, plutôt aux côtés du Liban, semble-t-il. Quel doit être le rôle de la France? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire?
La France est un ami, est un protecteur du Liban. Il faudrait qu'elle reste dans le jeu, accompagnée par les États européens. Aujourd'hui, la FINUL est structurée autour de forces européennes, que ce soit espagnoles, italiennes, françaises. Ça reste quand même la colonne vertébrale de la FINUL. Il va falloir trouver un successeur de la FINUL avec la présence de la France et de l'Europe pour garantir la sécurité à la frontière au-delà de la fin de cette année.
Israël qui dit donc qu'il ne veut pas de la France. Est-ce que vous vous dites, Antoine Basbous, qu'au moment où on se parle, on est peut-être à l'aube quand même sur cet angle-là, sur la question vraiment de la cohabitation Liban-Israël dans un moment véritablement qui pourrait être historique?
Oui, il y a eu un tournant. Un vrai tournant, le tabou est tombé, la négociation directe a eu lieu et sur la photo hier au département d'État, il y avait 6 personnalités et ils ont placé l'ambassadrice du Liban à côté de l'ambassadeur d'Israël.
Ils étaient vraiment côte à côte. On ne les a pas vus se serrer la main à proprement parler, mais ils étaient vraiment côte à côte.
Côte à côte sur la photo souvenir et face à face dans la négociation avec Marco Rubio, le secrétaire d'État.
Hormuz, le point de reprise de la guerre, est-ce que c'est là que ça se joue? Vous avez commencé cet entretien en évoquant la date du 21 avril, qui est la date butoir de la fin du cessez-le-feu tel qu'il avait été décidé. Qu'est-ce qui peut se jouer à Hormuz, là, dans les heures qui viennent?
C'est une position d'attente pour les uns et les autres. Chacun a placé ses hommes et ses conditions en attendant soit la reprise des négociations, soit la reprise de la guerre pour passer à ce que Monsieur Trump avait dit, je détruis les centrales électriques, je détruis les centrales de dessalement et j'éteins la lumière
en Iran.
Cette pause, en quelque sorte, on va terminer cet entretien, mais on l'apprend à l'instant. L'armée israélienne déclare que le Hezbollah a tiré ce matin une trentaine de roquettes, donc depuis le sud du Liban vers le territoire d'Israël. On parlait tout à l'heure de la frappe contre une voiture faite par Israël à l'aube, et là, c'est donc une trentaine de roquettes évoquées qui auraient été tirées par le Hezbollah.
Le Hezbollah a tiré depuis le 2 mars, sur instruction de Téhéran, plusieurs milliers de roquettes sur Israël. Alors que le gouvernement libanais, dans lequel le Hezbollah dispose de deux ministres, avait ordonné le désarmement du Hezbollah et la suppression de sa branche militaire et sécuritaire.
Et donc on le voit encore ce matin, effectivement, la démonstration que tout cela ne fonctionne pas.
Tout cela ne fonctionne pas.
L'autorité du Liban, en tout cas sur le Hezbollah, est défiée, au minimum.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci Antoine Basbous d'avoir répondu à mes questions ce matin et de nous avoir expliqué ce tournant peut-être face auquel on est. Vous êtes politologue et associé chez Forward Global. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des pays arabes. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin.
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité était Antoine Basbous. Il est resté avec nous. Rebonjour Antoine Basbous.
Rebonjour.
Nous avons bien sûr parlé de la situation au Moyen-Orient. Donald Trump voulait réagir. Bonjour Monsieur le Président.
Ouais, salut à tous. Nul, Antoine Basbous, il connaît rien au monde arabe. Il a même pas dit que j'étais génial, il a même pas dit que j'allais avoir le prix Nobel de la paix, parce que grâce à moi, la guerre, elle est finie.
Non mais attendez, Monsieur Trump, on est quand même encore en plein conflit, là.
Quel conflit?
D'accord.
Les Iraniens, ils ont dit on bloque le détroit du Mouche. Nous, on a dit, ok les gars, nous aussi, on va bloquer le détroit du Mouche, tu vois. On a réussi à se mettre d'accord. Mais tout ça, c'est vieux, c'était hier. Basbous, il a même pas dit que ça y est, le détroit, il est ouvert.
Ah bon, il est ouvert?
Oui, parce que depuis 4 semaines, les bateaux, ils bougent plus. Les hélices, elles tournent pas, du coup, les algues, elles ont poussé. Et le détroit, il est ouvert.
Oh là là là, c'est difficile.
Il n'a pas dit ça,
Non, il l'a fait dit. Merci, Monsieur Trump. Tiens, Dominique de Villepin voulait également réagir.
Bonjour. Je viens d'entendre, avec attention à l'instant, Monsieur Trump vilipender Monsieur Basbous en disant qu'il était, pardonnez-moi le mot, nul. Je trouve cela totalement injuste, disproportionné. Je pense qu'il a été... Je pense qu'il faut savoir en toutes circonstances, et qui plus est en temps de guerre, il faut savoir maîtriser ses propos, peser ses mots. Je dirais donc pas que M. Basbous a été nul, mais qu'il a été passable, voire médiocre. Je comprends donc que vous m'ayez invité pour éclairer de ma lumière votre studio plongé dans la pénombre d'experts eux-mêmes perdus dans l'obscurité.
Bien sûr.
Je vais tenter, tel un guide, je ne dirais pas suprême, ce serait trop modeste. Je vais donc tenter de vous montrer le chemin.
On vous écoute, Monsieur de Villepin.
En effet, je pense que c'est ce que vous avez mieux à faire. Un instant, je vous souhaitais que je développe en prose ou en alexandrin. Je peux faire les deux devis.
Ah, le moins coûteux des deux devis alors.
Vous me demandez donc de faire simple.
Oui, tout à fait.
Eh bien, je vais tout résumer en une phrase qui va témoigner de mon esprit de synthèse.
Allons-y.
Car si on y regarde plus près, ce qui est troublant, révélateur, mais tellement évident dans cette affaire... C'est que le détroit d'Hormuz est au flux pétrolier ce que je suis à l'expertise géopolitique. Il est incontournable.
Merci, Monsieur de Villepin. Antoine Basbous, après l'échec donc des négociations entre Américains et Iraniens, peut-on encore espérer la paix au Moyen-Orient?
C'est à moi.
Oui, je vous écoute.
Écoutez, je reste optimiste. Je pense qu'il y a de bonnes raisons d'espérer que la guerre en Iran, entre l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre côté, soit terminée avant même que j'ai fini ma phrase. Merci, Madame de Malherbe, de m'avoir reçu. Je vais devoir vous quitter. Nous sommes mercredi, vous le savez, jour des sorties cinéma. Et il y a un film très intéressant sur la guerre qui vient tout juste de sortir et que je veux être un des premiers à visionner.
Vous parlez peut-être du film Les Rayons et les Ombres avec Jean Dujardin ?
Non, non, il s'agit du film La Grande Vadrouille. Tel que je vous connais, je vous soupçonne que vous êtes déjà sur le coup pour inviter les deux belligérants dans votre interview, messieurs Bourvil et De Funès, qui sont plus que jamais au cœur de l'actualité.
Ah bah si vous avez leur téléphone, je prends, monsieur Basbous, merci. Allez, on retrouve tout de suite Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Eh oui, studio tendu. Oui, Thibaut Texer, le journaliste à la voix qui en impose encore plus que l'État français sur les carburants. Allez, c'est parti sur les titres de façon légère. Le gouvernement renonce donc à sa réforme. Le 1er mai restera une journée chômée. Rachida Dati avait déjà anticipé avec le 1er mai, journée chômée, le 2 mai, journée chopard, et le 3 mai, journée quartier. Et puis, crise pétrolière. Les demandes de pré-flash carburant se multiplient pour les professionnels qui utilisent au quotidien leurs véhicules utilitaires, camionnettes et autres fourgons, comme les chauffeurs-livreurs, les professionnels du bâtiment et les pédophiles.
Oh non !
La chaîne de salles de sport Basic Fit a été victime d'un piratage de toutes leurs données. Ce que redoutent les clients, ce n'est pas que l'on découvre leurs coordonnées bancaires, mais que l'on se rende compte qu'ils sont inscrits sans jamais y mettre les pieds.
Merci beaucoup Thibault. Le maire de Béziers, Robert Ménard, vient de publier Lettre à Clara. C'est un livre dans lequel il s'adresse à sa fille.
Non, mais attends,
féministe, non, mais anticapitaliste, insoumise, qui a donc des idées opposées aux siennes. Bonjour
non,
Robert
je
Ménard.
Je t'explique, oui, mais c'est surtout, tu as compris, c'est un cri du cœur ce livre. Oui. Non mais attends, c'est terrible, c'est un déchirement. Je ne sais pas si tu te rends compte, j'ai une fille qui elle est wokiste féministe et qui a des idées de gauche après tout ce que j'ai fait pour elle. Non mais je l'ai amenée, tu vois, voir des meetings de marine quand elle était gamine. Je l'ai amenée à la manif pour tous. On a fait des dîners avec Zemmour. On regarde Hanouna sous les soirs. Je lui dis, avait même pour faire le confret de l'intégrale de Jean Roucas. Non mais elle était pourrie gâtée impérément, tu vois, et malgré tout ça elle vote à gauche. Mais je te dis, je comprends pas.
Les jeunes sont souvent à gauche.
Non mais attends, je te parle pas des jeunes, je m'en branle des jeunes. Moi je te parle de ma fille. Donc, ben, tu peux comprendre la douleur d'un père. Quand elle était petite, tu vois, je la faisais sauter sur mes genoux en disant plus tard, peut-être plus tard, tu t'épouseras le fils de Laurent Wauquiez. Tu vois, peut-être que ce sera un vrai mariage de princesse avec du Michel Sardou pour entrer dans l'église.
Oui,
tu vois,
voilà.
Elle n'a pas changé d'avis. Tu vois. Alors, comme je me suis dit, elle comprend que dalle, je vais écrire un livre pour que cette gourde de zadistes comprenne en fait.
Ah oui.
Tu vois, mais dans un esprit, bien sûr, de réconciliation.
Oui.
Tu vois, cet appel, tu vois, je l'ai lancé pas que chez toi. Tu vois, je suis allé sur tous les plateaux, c'est à vous, quelle époque quotidienne, Polydome, j'ai pas fait les grandes gueules, téléfoot, envoyé spécial, ça peut vous arriver. Bon, pour dire à tout le monde, crier ce cri du cœur, qu'elle a rien dans le ciboulot,
oui.
qu'elle est pas fut-fut, mais que je l'aime, que j'ai envie de me réconcilier avec cette petite connasse. Tu vois,
c'est sûr, ça lui a fait
Oui, c'est quand même ma fille. Je vais pas dire grosse connasse, vu que j'essaye de me réconcilier.
Ah oui.
Je suis pas con, tu vois. Mais Alain Marchal, tu vois, il me comprend. Il sait ce que c'est d'avoir dans son entourage un wokiste gauchiste en Sarouel. Ça fait 20 ans qu'il passe ses journées avec Truchot.
Ah bah oui. Bon. Allez, merci Nicolas. Merci beaucoup à Antoine Malcous d'avoir accepté de jouer le jeu. Face à Canteloup tous les jours à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Alain Marchal est là, bien sûr. Quel est le programme des GG?
Ah ben, on va regarder le dispositif qu'envisage le gouvernement pour essayer de faire baisser le prix à l'essence. Franchement, on vous le lira, on n'y comprend rien. On a surtout l'impression qu'on se fout du monde, donc vous venez réagir au 32-16. On regardera ce que veulent les jeunes diplômés. Ils refuseraient un emploi s'il n'y a pas le télétravail. Est-ce qu'ils sont trop exigeants, trop capricieux? Et puis on vous racontera l'histoire des escaliers roulants de la station Châtelet à Paris, et ça, c'est quelque chose.